Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Aujourd'hui au Technopreneur, c'est la 289e émission. On vous parle de Meta. Je vous fais un topo sur vraiment les nouveautés de Samsung. Et on va parler aussi de Mickey Mouse. Bienvenue au Technopreneur.
La technologie,
des jeux vidéo,
des films et séries, l'espace infini,
l'entrepreneuriat.
Tu mixes ça ensemble puis ça donne les Technopreneurs.
Et oui, vous êtes sur les ondes du 96.9, votre alternative radiophonique. Et en ce 21 janvier 2024, ben c'est la 289e émission des Technopreneurs qui commence, et ça jusqu'à 14h30 aujourd'hui. Donc, une émission un petit peu plus bref, de vraiment d'une heure et demie. Ben parce que je m'en vais rencontrer des gens aujourd'hui au Centre Vidéotron. Parce que CGMD et les Remparts de Québec, ben, on a une belle association. Puis une fois de temps en temps, ben, on est présent au Centre Vidéotron pour dire salut à nos auditeurs, à nos fans aussi. Et puis vous permettre de venir nous rencontrer aussi en vrai, en présentiel. Donc je vais être là tantôt dès 15h au Centre Vidéotron pour une game des Remparts. Mais là, on va faire le show pour commencer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les technopreneurs, ben écoutez, c'est votre rendez-vous en matière de technologie sur les ondes de CJMD. On parle de, écoutez, de cellulaire, de séries télé, de Lego, de jeux de société, de la conquête de l'espace. On jase de tout. Qu'est-ce qui touche la technologie?
On parle même de souris.
On parle même de souris.
Mais tous les gens de souris.
Ben ça, c'est pas mal ta chronique. Ça, c'est le zélé de la télé. Salut!
Hello!
Et Mickey Mouse, on parle de Mickey Mouse tantôt?
Ben oui, Mickey Mouse qui est gratuit pour tous, mais pas tout à fait.
Ah, OK. Intéressant, parce que moi, j'étais sûr qu'on pouvait utiliser ça.
Il y a des nuances.
Il y a des petites nuances.
En effet.
OK, on décortique
ça. Des nuances
ça.
De souris.
Oui.
Ça ferait un bon titre de film, ça, ou de roman. 50 nuances de souris.
Ben écoute, je sais pas.
Ben, on va l'écrire, on verra si ça marche. Okay. On va peut-être millionnaire.
Tu utiliseras ChatGPT. Donc, lui que vous entendez, c'est Jean-Samuel Corriveau, le metteur en onde. Salut, JS.
Salut, man.
Comment ça va?
Ça va bien, ça va bien. Beau début de show. Je me suis pas planté. Oui!
Donc, non, tu t'envoies des belles félicitations.
Tout le temps.
C'est correct. Ben, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Merci
fait
d'être plaisir. Là. On va jaser un peu de jeux vidéo tantôt, moi et toi.
Ouais, exact. Je sais, un petit démo. Un petit jeu qui est sorti cette semaine. Prince of Persia de Lost Crown. Donc, ça va être le fun, je pense.
Ouais, j'ai vu des images. Colin, il me fait quasiment rappeler les vieux, là.
Ouais.
Peu, le genre, là.
C'est ouais, un jeu là. En 2.5D.
Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant.
Oh. OK. On en jase durant ma chronique Jimbo Tech. Donc, ma chronique Jimbo Tech. Ben, écoutez, aujourd'hui, je veux parler des nouveautés de Xbox. C'est un peu plus rare, je le fais, mais là, on va en parler. Donc, un nouveau jeu d'Indiana Jones. On a des dates de sortie aussi pour Hellblade Suena, donc qui a été annoncé il y a quand même quelques temps, on s'entend. Puis, on va parler aussi de la version remasterisée de The Last of Us Part 2 qui est disponible sur PlayStation 5 aussi.
Et n'oubliez pas, chers auditeurs, que si vous avez des questions pour nous, des commentaires durant l'émission, vous pouvez toujours nous rejoindre en studio directement ou par texto au 418-903-5969 ou évidemment sur notre page Facebook.
Exactement. Et là-dessus, bon, on ne tardera pas. On commence le show immédiatement en actualité technologique. quoi qu'on s'attend pas en studio, hein? Diane qui est à l'aise.
C'est comme. Mais dis-nous bonjour, Diane. Je vais t'allumer le micro bleu et fais-nous un beau coucou.
Coucou.
Que, hey, c'était Diane. Salut, man.
C'est bon.
C'est ça, on a presque eu justement des images de son coucou, en effet.
Ben oui. Alors, donc, ben, pour vous mettre, Guillaume Dionne, c'est notre gars technique à la station. C'est un beau petit coucou d'une belle couleur. et là-dessus, ben moi, je veux vous parler vraiment des magasins La Source. Et pourquoi je vous parle des magasins La Source? Ben parce que vous allez comprendre, ça fait déjà un bon moment que c'est Belle qui a acheté tout ça. Et puis, vous allez comprendre que ça va arrêter d'exister, La Source. Pourquoi? Parce que de fond, ils ont vraiment, Belle a décidé de signer une entente avec Best Buy pour finalement faire en sorte que ça devienne des Best Buy Express.
Autrement dit, on se débarrasse de ça.
Ben, c'est un peu ça. Donc, vous allez comprendre que pour l'instant, les magasins de Source ou La Source, ben, il y a ces 300 magasins un peu partout au Canada. Et actuellement, ben, avec ce nouveau partnership-là avec Best Buy, ben, vous allez comprendre qu'il va y avoir à peu près la moitié de La Source qui vont fermer leurs portes.
C'est ça, ça ne sera pas tous là, qui vont survivre là, puis qui vont garder la nouvelle bannière en
non,
plus.
Non, c'est ça. Et c'est ça, c'est selon le Globe and Mail, donc selon les informations qu'on aurait reçues. C'est 165 La Source qui vont se transformer en Best Buy. Et ça, c'est quand même, c'est très éminent là, comme changement. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Ça devrait être, d'ici cet été, que ça devrait être fait pour l'ensemble des magasins La Source.
Dire que c'est déjà, tu sais, c'est la fin d'une ère qui était déjà la fin d'une autre ère, qui était Radio Shack, qui est devenue La Source.
Oui, en effet, parce que moi, c'est pour ça que je vous en parle, parce que tu sais, moi j'ai une petite affection avec ça, parce que j'ai travaillé pendant 4 ans pour le magasin Radio Shack, et avant qu'il soit finalement changé de nom pour La Source par Circuit City.
Mm-hmm.
Puis il faut comprendre que l'achat de Circuit City, vraiment des magasins Radio Shack au Canada, ça date de longtemps, ça avait été fait en 1986. Et ça, j'étais même pas au courant quand je travaillais
non plus,
pour...
Je savais pas que c'était ça fait si longtemps que ça.
C'est ça, mais ça restait quand même la compagnie parent qui s'appelle Entertain, qui gérait tout ça. Donc, toute la structure, ça restait quand même Entertain, mais ça restait que une bonne partie de la propriété, c'était La Source qui possédait ça. Mais après ça, tranquillement pas vite, ben vous allez comprendre que c'est en 2005 qu'il y a eu le grand changement, donc La Source par Circuit City. Et moi, je travaillais à cette époque-là, donc ça faisait 2 ans que je travaillais pour Radio Shack. Et les 2 dernières années, c'était La Source. Et là, c'est là qu'on a vu le grand changement quand même de un magasin qui vend des fils, des batteries, des transistors à un magasin qui vendait plus des trucs génériques, donc encore gadgets, mais peut-être moins des pièces, moins des composantes, comme Radio Shack pouvait être à l'époque.
C'est ça, le plus des téléphones, voire dans certains cas, des consoles même.
Oui, ben vraiment, il y avait juste un retrait de tout ce qui était plus technique, je vous dirais. Donc, on tombait vraiment plus consommateur régulier. Et c'est en 2009 que Bell, finalement, ont racheté vraiment tout ça. Donc, vous allez comprendre aussi que Circuit City aux États-Unis, ça n'a pas super bien été non plus, on s'entend. Et c'était donc 750 magasins que Bell ont racheté en 2009 pour finalement... Mais tu sais, tu voyais qu'ils ne faisaient pas grand-chose avec ça, Bell. À part vendre des cellulaires puis des Bell Fibes, il n'y a pas eu grand-chose de fait.
Ils n'ont jamais injecté d'énergie dans cette division-là.
Ça servait juste à ça, là, point barre. Là.
C'est pas mal ça.
C'était un centre pour être capable de vendre. Là,
acheter des écouteurs, acheter des haut-parleurs Bluetooth, acheter des jeux vidéo. J'aurais pas été là pour acheter un téléviseur. Là.
Pas tant, non.
Non, parce c'est ça.
C'était pas des modèles intéressants qu'il y avait, de toute façon.
Donc voilà, ben on se trouve à tourner une page d'une certaine façon. Et puis vous allez comprendre que l'entente avec Bell aussi, ben continue, hein. Donc Bell ferme les portes, mais ça reste une entente avec Best Buy. Donc c'est pas un achat. Donc vous allez comprendre que vraiment toutes les filières de Bell vont être encore intégrées à ces magasins-là, Best Buy Express, donc Virgin Plus, Lucky Mobile du côté, donc tout est vraiment les petits trucs qui appartiennent à Bell vont continuer d'être propulsés dans ces magasins-là. Donc et puis, comme je vous disais, ben on devrait voir tout ça apparaître d'ici cet été. J'ai aucune idée pour les magasins de Québec, lesquels vont fermer, lesquels vont rester en vie, mais posez-vous la question, à vrai dire, si vraiment vous allez dans un magasin La Source puis il n'y a jamais personne dedans, ben dites-vous qu'eux autres vont sûrement fermer, puis eux autres que vous avez déjà entré dedans puis qu'il y avait un peu de monde, d'après moi, il devrait rester en vie. Mais, tu sais, d'après moi, peut-être La Source canardière...
Mais je serais encore surpris parce que, tu sais, dans le fond, si c'est un genre une succursale relais du Best Buy, ben, si t'es proche d'un Best Buy, t'as peut-être moins de chances que la source reste ouverte. Donc, Canardia, il va peut-être rester ouvert juste pour les précommandes. Fait que si ça peut sauver des kilomètres d'autobus à des gens, ben, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais on verra parce que j'ai comme l'impression que ça va juste être un autre rebranding avec d'autres couleurs, puis c'est tout.
Pas mal, ouais, c'est ça. Puis, à vrai dire, moi, un des trucs que j'aime bien de ce magasin-là, c'est la possibilité de pouvoir acheter en ligne, voir l'inventaire en ligne, puis pouvoir faire livrer le produit à cet endroit-là. Mm-hmm. On peut même payer avec notre carte de guichet. Donc, tu sais, c'est quand même bien fait. T'sais. Surtout l'inventaire en ligne comme ça, je trouve ça vraiment bien fait. Les précommandes aussi, c'était quand même bien fait du côté de la source. Mais tout ça devrait continuer. Donc, tu sais, je pense pas qu'il va y avoir des changements sur le site Internet. Mais est-ce qu'ils vont fermer le site Internet pour tout réintégrer ça à Best Buy? Peut-être. Là, ça, on va le voir avec le temps. Donc, on vous tient au courant de tout ça. N'hésitez pas, chers auditeurs, d'aller faire un tour sur la chaîne YouTube de CJMD. Donc, vraiment, il y a plusieurs entrevues qui sont là en lien avec les technopreneurs, des performances musicales qui sont là aussi. C'est gratuit. Allez vous abonner. On est proche de pogner le 900 abonnés. On aimerait ça se rendre à 1000 en 2024. Ça serait un beau projet. Donc, et puis, si vous allez vous inscrire, ben, c'est simple. Vous encouragez votre station préférée. Donc, YouTube, CJMD. Allez vous inscrire. Et là-dessus, ben, on change de sujet. On s'en va parler de Mickey Mouse avec notre zélé.
Guillaume Bouchard, dans le rôle du zélé de la télé.
Hey, salut les gars. Bonjour. 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 Bonjour.
Écoute, à savoir pourquoi qu'on s'en va jaser de Mickey Mouse avec le zélé, c'est surtout en plus que je sais que t'es pas un fan d'animation de base.
J'ai déjà été, mais beaucoup moins maintenant. Je préfère largement les vrais visages, les vraies expressions humaines à l'animation.
Ouais, c'est ça. Mais là, on s'en va jaser de Mickey Mouse. Pourquoi qu'on jase de Mickey Mouse avec toi?
Ben parce que Mickey Mouse à partir depuis le 1er janvier dernier et maintenant dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour Monsieur Tout-le-Monde? Ben, ça veut dire que théoriquement, on pourrait prendre le personnage de Mickey Mouse et écrire une histoire puis qui est dedans, faire un film qui est dedans.
Puis je ne reçois pas une poursuite de Disney.
À moins que tu utilises la version plus récente de Mickey Mouse. Donc, Mickey Mouse, à l'origine, donc, faire un petit historique. Donc, c'est un personnage qui est créé par Walt Disney, évidemment, mais également par Ub Iwerks, qui était plutôt le dessinateur de l'époque, qui était le bras droit de Walt Disney. Donc, en 1928, et dans le fond, est paru Steamboat Willie, qui est pas le premier film dans lequel il est dedans, mais c'est le premier film qui a été qui est paru, dans le fond, donc qui a été publié. Est inspiré un peu là de dans le fond du personnage de Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks avec ses gants, si on pourrait dire, qui était pas blanc à l'époque, qui était plutôt jaune un peu. Il y avait pas les mêmes grands yeux non plus qu'il a maintenant. Donc c'est plutôt cette version là qu'on voit dans le film Steamboat Willie, qui est sorti en novembre 1928. Pourquoi il est dans le domaine qu'on appelle public maintenant, c'est que les 95 années se sont écoulées pour, si on veut, le brevet au niveau des droits des droits intellectuels sur le personnage, sur le film lui-même aussi. Donc, tout le film au complet peut être utilisé. C'est pas le premier personnage, hein, tu sais. Puis là, on trouve ça bizarre, Mickey Mouse, hein, ouais. Mais tu sais, écoute, si on prend Peter Pan, si on prend Robin des Bois,
Pinocchio,
ce sont tous des personnages qui viennent de vieilles histoires et qui ont été réutilisés par nul autre que Walt Disney pour faire plein de contes, on réutilisait ça. Donc, c'est pour moi, c'est un peu particulier parce que il y a environ une vingaine d'années, il y a eu une pression par la Walt Disney Company, en tout cas, peu importe comment on l'appelait, justement pour s'assurer de conserver encore les droits une vingaine d'années supplémentaires. Parce que c'était 25 ans, c'était 70 ans avant. Et maintenant, ça a changé un peu parce que, tu sais, il y a tout ce qui est au niveau des droits intellectuels, il y a avant 1978, donc les productions qui sont sorties avant 1978 et après 1978. Donc, ce qui est sorti avant 1978, c'est 95 ans. Donc maintenant, ça veut dire que peu importe ce qui est sorti, dans le fond, à telle date, comme Steamboat Willie est sorti en novembre 1928, donc 95 ans plus tard, ce qui nous menait à novembre 2023. Donc à ce moment-là, c'est que ça permet à partir du 1er janvier, donc les quelques mois plus tard qui ont suivi, de maintenant utiliser Mickey Mouse comme on veut. C'est différent maintenant, par contre, depuis 1978. Donc, tout ce qui est sorti par la suite. Si on donne comme, par exemple, les Harry Potter. Donc, J.K. Rowling est encore quand même une femme pas si vieille que ça. Je pense qu'elle est peut-être dans la cinquantaine, soixantaine. Maintenant, les nouveaux droits, c'est 70 ans après la mort de l'auteur original.
Ah, OK. Fait que c'est ça la grosse nuance, là.
Exactement. Donc, okay. Tout ce qui est. C'est vraiment le pré-1978 et post-1978.
Ça incite à tuer, ça, c'est pas correct, ça.
Donne-moi les droits. OK, j'avais pas pensé à ça de même, moi. Okay, on sait c'est bon. Qui est dark. Hein?
Excusez, je vais aller me cacher dans ma cale.
Mais, donc, ça veut dire que le personnage emblématique de l'Empire Disney, qui est Mickey Mouse, donc sa première version, comme elle est apparue dans Steamboat Willie en 1928, est maintenant disponible et déjà utilisée dans un film d'horreur qui est en production. Dans le fond. Et dans le fond, c'est pas la première fois, là. Parce qu'il faut dire que Winnie the Pooh est également un personnage qui est devenu, dans le fond, dans l'ordre public, je crois c'est l'année dernière ou l'autre année d'avant. Et il y a eu un film d'horreur qui est sorti avec Winnie the Pooh, qui a quand même fait quelque chose comme 125 millions au box-office.
OK, quand même.
Ce qui n'est pas négligeable, parce que le voyons, ça n'a rien coûté au niveau des droits d'auteur.
Ben, c'est ça.
Donc, c'est juste la production elle-même que ça a coûté. Ce qui veut dire que c'est un film qui était... Ça s'appelait Blood and Honey. Dans le fond, excuse-moi, pas du tout. Pas autant que ça. Ça fait 2,5 millions. J'étais dans le champ un petit peu. Je m'excuse, j'avais pas les bons chiffres.
Okay,
par contre, le film a coûté moins que 100 000 à faire.
OK. Non, un film amateur un peu.
Exactement. Là. Donc, on parle de 25% le coût de sa production. 25 fois le coût de sa production. C'est pas si pire, hein?
Moi, écoute, qu'est-ce que tu me dis là? Avec Steamboat Willie, je fais juste penser à l'épisode des Simpsons qui réutilise un peu ça. C'est la saison 7, épisode 18. Là, c'est The Day the Violence Die. Et puis, c'est l'épisode de vraiment que Bart rencontre un itinérant et que c'est lui qui se trouve à proclamer qui est le créateur officiel de Steamboat Willie. Donc, c'est dans l'univers de Itchy Scratchy, évidemment. Et ça serait le premier dessin animé qui a de la violence. Mais c'est vraiment inspiré de ce que tu dis, là. Vraiment, donc moi je me souviens beaucoup de ça. Et il demande au créateur officiel 800 millions de dollars. Puis les Flamands, ils se font crisser dehors des studios. Mais je voulais pas te couper à ce point-là, mais ça me fait penser à ça.
Mais c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, justement, j'ai décidé d'aller chercher. Parce que là, si Mickey Mouse est sorti, c'est quoi les prochains?
Ben oui, parce que c'était à tous les débuts d'année, ça, là. Qu'il y a des droits donc qui deviennent accessibles pour. Tout le monde, finalement.
Absolument. D'après vous, c'est quel le prochain personnage de Disney qui, dans le fond, c'est dans 2 ans, en fait, le prochain personnage de Disney, qui est relativement célèbre également?
Ben, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles?
Non, on va dire un personnage emblématique, parce qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est un vieux roman.
C'est un vieux conte, c'est ça?
On lui donne-tu un indice?
Hein?
Le meilleur ami de l'homme. On dit ça comme ça.
Ouais, le meilleur ami de l'homme.
Un chien, donc...
Oui, comment est-ce qu'il s'appelait le chien de Walt Disney?
C'est proche d'une
L'ami
planète.
L'ami de Goofy.
Ah! En tout cas, d'une ancienne planète.
C'est Pluto. Ah. Alors, Pluto, dans 2 ans, va être également du domaine public. 2 ans plus tard encore, cette fois-ci, c'est Donald Duck qui va devenir également... Donc, dans les prochaines années, il y en a plusieurs qui s'en viennent. Ceux-là que j'ai notés qui sont vraiment intéressants, on parle là, d'ici à 2032. Quand même, là. C'est quand même quelques années, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Superman.
À ce point, vieux. Là,
Superman, c'est... Ben oui, puisque Superman, c'est 1938, le premier qui est sorti Action Comics No. 1.
Aïe, aïe.
En effet, donc, qu'est-ce qui est sorti aussi une année auparavant, donc en 1933? C'est Le Hobbit de Tolkien. Ce qui veut dire que c'est en 38 aussi, donc on parle en 37, excusez-moi. Donc, ce qui veut dire qu'en 2033, Le Hobbit va devenir maintenant dans le domaine public. Batman, en 2035. Captain Marvel, Dans le fond, dans les personnages de... en fait, c'est un personnage... Captain Marvel, c'est un personnage de DC, bizarrement.
Mm-hmm.
The Flash, la version de Jay Garrick, donc évidemment pas celle-là de Barry Allen. Captain America, en 2036. Et les deux derniers que j'ai notés, c'est Aquaman, donc le plus récent film qui a été un échec, là, disons pas cuisant, mais pas très intéressant au box-office, et Wonder Woman, donc en 2037. Alors, ce qui veut dire que donc dans les prochaines années, là, il y a quand même de grosses propriétés intellectuelles qui vont tomber dans le domaine public. Évidemment, dans certains cas, c'est leur version originale. Comme dans le cas de Batman, évidemment, c'est la version qui était sortie dans le Detective Comics numéro 5. Je me rappelle pas exactement du numéro comme tel. Mais t'sais, des personnages comme le The Flash, la version de Jay Garrick, ou même Captain America, là, c'est le personnage emblématique de toute la série des Avengers qu'on a vu là dernièrement, qui est sorti au niveau des films de Marvel. Donc, ça risque de créer, disons, beaucoup de travail légal. Parce que, assurément, il y a plein de choses qui vont être produites qui risquent de, disons, de frôler ce qui va tomber dans la propriété intellectuelle puis ce qui va tomber dans le domaine public. Assurément, les DC, les Marvel, les Disney de ce monde vont tous, dans le fond, s'engager plusieurs avocats pour valider que leurs droits ne sont pas bafoués avec ce genre de choses-là.
Mm-hmm.
Mais moi, je pense que c'est tout à fait normal. Parce que là, c'est des compagnies qui ont fait quand même énormément de profits avec ces personnages-là. C'est tout à fait correct, là, à un moment donné, qu'on tombe dans un contexte où est-ce que ça va être accessible pour plus de gens. Hein, qui vont pouvoir utiliser ces histoires-là. Parce que, tu sais, c'est niaiseux, là. Tu sais, les cavernes d'Ali Baba, tu sais, c'est tous des vieux contes, là, qu'on pense pas à ça, mais qui sont maintenant gratuits, qu'on peut utiliser les personnages. Tu sais, souvent, on pense à ça. Tu sais, en musique, c'est pas tout à fait la même chose, là. Mais, pourquoi est-ce que on voit toutes les versions de musique classique, là, les concerts de Beethoven, pis ben, pourquoi? Parce que ça coûte rien en redevance au niveau des droits d'auteur. Donc, ça risque de faire d'amener des productions intéressantes.
Ben, il y en a une, justement. Moi, j'ai vu dans les jeux vidéo. Ça avait été annoncé en été 2023. Ça s'appelle Mouse. Et c'est un jeu à la première personne. Mais c'est vraiment fait comme comme le jeu Cuphead. Donc, le jeu Cuphead, c'est un jeu assez difficile. Mais je vous dirais, c'est le graphisme, c'est l'animation qui est vraiment impeccable. Donc, on se croirait dans un film des années 30, à peu près. Donc, en termes d'animation. Et c'est un jeu qui est en noir et blanc, mais un beau noir et blanc, bien fait, bien réfléchi. Et puis, il savait, là, littéralement, que la propriété intellectuelle de Mickey Mouse tombait en liberté pour avoir annoncé le jeu. Sans que le jeu soit encore disponible pour l'instant, toujours en production. Mais de qu'est-ce que j'ai vu, c'est quand même assez surprenant. Puis c'est quand même assez surprenant de voir un jeu de Mickey Mouse avec un gun. Là. Puis il y a du sang aussi. Là. Fait que, tu sais, on est un peu là. Donc là, ça rouvre à la création et l'originalité.
Ben là, c'est, dans le fond, le film d'horreur là, qui va sortir sur Steamboat Willie, là, c'est vraiment ça. C'est un film d'horreur où est-ce que là, c'est ça, il y a une espèce de killing spree là, qui se fait sur le bateau, puis Mickey Mouse tue tout le monde.
Ça veut pas dire que ça va être bon non plus. Là.
Non, c'est pas parce que t'as... Tu sais, je veux dire, il... En tout cas...
Ça pique la curiosité, par exemple. Moi, j'ai le goût d'aller l'écouter, là.
Ben oui et non. Moi, je veux dire, je suis pas tout le temps assez curieux que ça. Mais sauf que ce qui est un petit fait intéressant à noter à propos de Mickey Mouse, c'est qu'à l'origine, dans le fond, ça devait pas être... Ce personnage-là a été créé un peu par inadvertance, mais par la bande, parce que c'était le remplacement d'un personnage qui s'appelait Oswald de Lucky Rabbit, qui devait être le personnage utilisé dans le comic la première fois. Et puis, lorsque un des exécutifs de chez Universal Pictures, qui était propriétaire, dans le fond, de tout ça à l'époque, il trouvait que le personnage n'était pas intéressant. Fait qu'ils ont retourné Walt Disney et... j'ai tellement de la misère à prononcer son nom, son compatriote là qui s'appelle Ub Iwerks. Dans le fond, que ben c'est cherchez-le là, c'est vraiment Ub.
Tu lui rends hommage.
Il s'appelle Ub et son nom de famille c'est Iwerks. K-S. Que c'est quand même particulier.
Oh oui, quand même.
Enfin bref, c'est ça. Ils ont été retournés à la planche à dessin et c'est là qu'ils ont dans le fond qu'ils ont griffonné et ils sont arrivés avec la petite souris qui est maintenant célèbre.
Ben merci beaucoup, Zélé.
Ça fait plaisir.
C'était super intéressant. Mm-hmm. Je voulais avoir les détails supplémentaires de ça, puis la grosse nuance qu'il y avait avec ça.
Ben, oui, c'est ça, parce que tu sais, il faut vraiment, ça c'est important, on peut vraiment pas prendre là, n'importe quelle version. Tu sais, ce que vous avez en tête, là, ce que vous voyez dans Disney, le Mickey Mouse là, de là.
Récent, là, c'est pas lui qu'on va voir. Là.
Même là, dans le cas de Donald Duck, c'est la même chose. Là, c'est sa première itération qu'on a vue, puis il est pas du tout pareil. Là. Justement, je suis tombé sur des vieilles images, là, des images d'archives. Puis ils se ressemblent pas du tout. Là. Dans le cas de Mickey Mouse, c'est un petit peu plus proche, mais dans le cas de Donald Duck, il y a une grosse différence. Il y a son petit saut de bleu, là, j'en conviens, là, mais le visage n'est pas du tout pareil. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose qui. Il va y avoir beaucoup de nuances à faire, puis c'est certain là, que ça va faire des batailles légales interminables. Là. C'est ça que je trouve un peu dommage, parce que je pense que rendu là, on pourrait dire, bon, ben c'est correct. Là,
ben, c'est Disney qui va vouloir faire ça. Là.
Ben, c'est Disney qui va. Ils veulent préserver leur image, parce que, tu sais, juste quand on parle de Disney qui préserve son image, tu sais, les cas souvent de situations difficiles qu'il y a dans les parcs Disney sont souvent un petit peu...
isolés.
Oui, bien, sont isolés, mais sont surtout, disons, camouflés.
Oui, c'est ça.
Puis même ceux-là qui sont, tu sais, on avait un employé de Disney qui, dans le fond, publiait des vidéos, puis les vidéos se sont mis à disparaître tout à coup, puis l'employé non plus, et puis là. Fait que,
c'est très important, leur image.
Là. Oui, absolument. Puis tu sais, je quelque part, là, fou. Mais c'est de l'argent.
Ah ouais, c'est une grosse corporation, Walt Disney. Puis,
exactement.
Voilà.
On fait pitié les grosses corporations aussi, en 2024.
Là, à vrai dire, là, on va en jaser de grosses corporations, parce qu'après la pause, on va jaser de Meta. Hein, donc, il y a vraiment, parce qu'il y a des milliers d'entreprises qui traquent vos données sur Meta, malgré Meta dit que c'est pas censé.
Et une méta des données.
C'est pas ta meilleure, mais on va aller à la pause publicitaire, tu vas pouvoir t'améliorer. Mais à vrai dire, je veux vraiment rappeler à nos auditeurs aujourd'hui que le dimanche, à CGMD, c'est la journée du bingo!
Oui!
Ouais. Donc au total, 3 000 $ en prix à chaque semaine qu'on fait tirer. Les cartes de jeu sont à 11,75 $. Et puis, vous avez énormément de chances de gagner parce qu'il y a plein de petits concours aussi pendant le bingo que vous pouvez nous envoyer aussi en texto. Et puis, tout ça, c'est diffusé aussi sur YouTube. Donc, c'est très facile d'avoir un visuel aussi sur le bingo de CGMD.
Vous avez même le temps d'y aller direct là, là.
Exactement. Donc, pour tous les points de détail, 969fm.ca. Et là-dessus, ben nous, on s'en va à la pause publicitaire. Restez là, parce que vous écoutez les Technopreneurs.
Politique correcte.
Je me demandais où vous logez maintenant. Êtes-vous à Toronto? Êtes-vous en Floride?
La plupart de l'année à Toronto. Et à part de ça, je suis en Angleterre. Je suis toujours membre de leur Parlement, comme okay. Vous savez. La Chambre des Lords.
Ben oui, vous êtes Lord.
Oui. Ah, okay. Je suis un baron. Un peu de respect, monsieur.
Certainement. Et un grand merci.
Je vous remercie. C'est un plaisir toujours de faire la connexion encore avec le Québec. Je suis né à Montréal. Je suis dans mon cœur, je suis toujours Québécois.
C'est vrai, ça?
Oui.
C'est très apprécié. À la prochaine.
Okay. Bonjour.
Merci beaucoup. Conrad Black.
Politique correct. Votre retour en semaine dès 15h.
Bise la ressourcerie, un choix logique.
Ici Timo
et B.I.S. de Tactica.
Vous écoutez présentement CJMD
4.com.
CJMD 96.9 Lévis.
Et oui, vous écoutez les Technopreneurs en ce dimanche 21 janvier 2024. Et nous, on est en direct jusqu'à 14h30 pour vous parler de technologie, de méta, de jeux vidéo. Et aussi, ben, on va faire un résumé de la grande conférence de Samsung qui a eu lieu mercredi dernier. Donc, pour présenter ses nouveaux téléphones S24, S24 Ultra... Et toutes les nouveautés chez Samsung.
C'est juste moi qui ai perdu le fil, là. Me semble qu'ils sont rendus à 116, là.
Qu'est-ce que tu veux dire, 76?
24, là, mais je comprends. Mais...
ben, écoute, c'est un peu comme Apple. Donc, on fait vraiment des grosses conférences à toutes les années pour présenter qu'est-ce qui s'en vient. Ben, on va reparler des nouveautés.
Il n'y a pas eu de conférence d'Apple en 2023. Du moins, il n'y a pas de nouveau produit qui est sorti.
Ah, ben oui, quand ils ont annoncé les iPhone 15.
2023?
Ben oui.
De mais mémoire, c'est l'iPad. C'est la première fois qu'ils ne sortent pas d'iPad.
C'est l'iPad. Ouais.
Et tout le monde pleure.
Il n'y a pas eu de révision des iPads, mais il y avait eu une grande révision l'autre année.
Pour faire du pouce avec ce que tu as dit, Guillaume, c'est les suites de numéros de téléphone, ça n'a comme pas de sens. C'est un peu comme les Xbox, là, 360, le One, le peu importe. Là. Mais c'est pas aussi pire que les marques de char avec les séries de char. Ça, là, on va se le dire. Là. N328, ça veut dire quoi versus tel autre produit? Puis là, finalement, ils reviennent sur les pas. Bah, ça n'a jamais voulu dire ça, ça.
Ouais, c'est ça. La EX SE Supreme Premium Edition.
Ouais.
Ça, c'est à cause qu'il y avait...
En 87, ça voulait pas dire la même affaire qu'en 2023. Non, c'est normal, mais tu sais, d'une année à l'autre, ça suit pas.
Non, dans le temps, il y avait un Cavalier Z24. C'est pas niaiseux.
Le meilleur char
c'était au monde. Le Cavalier, mais le monde disait, ah, oh, c'est un Z24. C'est un Cavalier que t'as. Non, c'est une Z24. C'est un
Z24.
Il y a un plus gros moteur dans celui-là.
Hey, ça, là, c'était mon... Quand j'étais ado, là, ça, c'était mon char de rêve.
Puis celui-là, ben c'est le fun, il rouille plus vite.
Oui.
Je voulais vraiment suggérer à nos auditeurs, écoutez, si vous avez une question pour nous, gênez-vous pas, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969 ou un petit commentaire si vous, vraiment vous avez la même opinion que nous. Et si vous voulez, ben, on a la page Facebook Les Technopreneurs. Et là-dessus, ben, on continue en actualité technologique.
C'est drôle, je suis tellement surpris là, de la nouvelle que tu nous annonces.
Bien, on parle de Meta. Donc, Meta, vous allez comprendre, c'est la grande entreprise derrière Facebook, derrière Instagram. Et actuellement, qu'est-ce qu'on se trouve à pointer du doigt du côté de Meta? C'est qu'il y a des milliers d'entreprises qui traquent vos données pour les offrir à Meta. Et Meta, donc Facebook ou finalement Instagram, comme vous voulez. Mais il faut comprendre que le réseau social précise que les entreprises et les organisations ne sont pas autorisées à partager des données sensibles comme des informations financières et médicales. Puis on ajoute aussi que les outils de business pour mieux comprendre les performances du site web ou des applications, que nécessairement, c'est surveillé par eux. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'ils sont en contrôle de tout ça. Mais en réalité, c'est pas ça la réalité.
Mais ça, c'est comme de dire, voici un missile. Et comment s'en servir? Mais sers-toi-en pas, par exemple.
Oui, on peut le voir un peu comme ça, effectivement. Ouais, j'aime bien ton analogie. Parce qu'il faut comprendre, donc, selon une association américaine qui s'appelle Consumer Report, et ça a été publié par The Markup, basé sur un échantillon de 709 volontaires, qu'on a permis de constater qu'il y avait environ, et là, tenez-vous bien, là, 187 000 entreprises qui détenaient des informations sur des consommateurs américains et qu'on communiquait cette information-là à Facebook. Donc, la moyenne par personne, selon l'échantillon, était à peu près de 2230 entreprises qui avaient été traquées à peu près par plus de 7000 et voire jusqu'à un maximum de 48000 entreprises. Donc, là, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Donc, les entreprises sont gourmandes d'informations comme ça pour y permettre, bien évidemment, de téléverser les informations, les habitudes d'achat à leurs clients. Et puis, là, vous allez comprendre que les clients là-dedans, c'est Facebook pour que finalement, bien, on fasse donc la publicité ciblée, comme on connaît si bien. Et bien, vous allez comprendre que les entreprises les plus voraces dans tout ça, évidemment, écoute, Amazon, Walmart, Home Depot, auraient été vraiment donc les entreprises qui n'utilisaient le plus. Donc, écoutez, c'est quand même assez spécial à comprendre tout ça, parce que quand j'ai lu la nouvelle, j'avais de la difficulté un peu à comprendre tout ça. Donc, finalement, on dit qu'on ne fait pas ça, mais en même temps, il y a plein d'autres compagnies qui utilisent des outils pour finalement rattraper et tout prendre ce data-là de Meta, qui est finalement public, qui est ouvert. Donc, nécessairement, Meta essaie de contrôler son information, mais vu que c'est public, c'est ouvert, c'est sur le web, mais en réalité, il ne contrôle pas grand-chose. Là. C'est un peu ça que je comprends. Là.
Ben, c'est comme d'avoir une forteresse, de dire, OK, on bloque la porte principale, mais on laisse toutes les autres ouvertes.
Oui, c'est ça. Puis les fenêtres sont ouvertes aussi.
Oui, c'est ça. Les fenêtres sont ouvertes, puis il n'y a pas de toit.
Il n'y a pas de garde non plus.
C'est ça.
Il y a même une compagnie, tu sais, sur leur site web. Donc, c'est la compagnie Axiom se vante sur son site web d'atteindre plus de 2,5 milliards de consommateurs et de consommatrices dans le monde. Donc, tu sais, vraiment, les chiffres qui sortent, c'est les chiffres en lien avec toute vraiment la base de données de Facebook qui se trouve à enregistrer en temps réel avec des trackers pour finalement revendre ça avec une précision dans la vente. Donc, et on revend ça directement à Meta, hein, parce que vous allez comprendre que Meta, oui, c'est gratuit Facebook, oui, c'est gratuit Instagram, oui, tu peux téléverser des photos, etc., etc. C'est intéressant, mais tout ça, ça a un coût. Et si vous nous demandez, ça coûte vraiment... Facebook fait combien d'argent avec chaque utilisateur, utilisatrice au Canada, bien, la réponse est 88 sous. Donc, 88 sous par personne, par utilisateur au Canada. Donc, si vous faites le calcul, là, juste au Canada, là, Facebook fait à peu près 7 milliards de revenus par année. Puis là, j'étais pour dire revenu net, là, mais on est proche du revenu net quand même. Mm-hmm. Parce que vous allez comprendre que les dépenses sont pas si énormes que ça pour Facebook au Canada, au point tel qu'ils disent qu'ils investissent 250 000 $ pour certaines organisations ou certains journaux. Et puis que ça, c'est beaucoup d'argent.
Extrapoler ça à tous les pays du monde, les grandes nations comme les États-Unis, comme la Russie, comme, tu sais, ainsi de suite, là, tu sais. OK, ils sont pas en Chine parce qu'ils sont bloqués, je pense, en Chine, mais ça...
Ouais, ben c'est contrôlé par l'État. Donc, c'est un Facebook, mais...
Version
gouvernement, là.
Épurée. C'est les pubs, ça doit être des pubs du gouvernement.
C'est ça.
Mais c'est spécial, pareil, quand tu lis l'article, ils disent qu'il y a des entreprises, comme tu dis, Amazon, l'autre entreprise, là, Axiom, puis t'en as d'autres qui s'appellent genre Viking ou BM5100 TKCQC NLML.
Ben, à vrai
c'est comme ça qu'ils s'identifient.
C'est des firmes. C'est des firmes.
Mais ils se cachent.
Mais ils se cachent, exactement. Parce qu'ils vont pas sur leur nom. Donc, ils vont vraiment tout le temps vers des noms très génériques comme ça, qui font en sorte que finalement, Facebook vont essayer de dire on essaye de vérifier, on essaye de contrôler cette info-là, mais ils se cachent derrière d'autres noms. Mais oui, mais c'est comme ça que le web fonctionne depuis le début. Vous étiez au courant de tout ça. Là.
Un bon truc pour les auditeurs, ça vous tente de déjouer l'algorithme. Faites des recherches complètement farfelues le plus souvent possible. Faites-leur perdre leur temps. Si ça vous tente de perdre du temps un peu, là, c'est exemple, vous avez 2 minutes, là, tapez un bas de chat, puis regarde, vous venez de focailler votre historique aussi. C'est sûr que tout ce qui va aller avec le reste va être répercuté là, aussi. Là,
mais donc, même, je dirais, tu sais, dans d'autres aspects, là, souvent avec les algorithmes, tout ça, je trouve ça presque un peu gossant. Parce que ça m'arrive souvent sur YouTube. Je vais écouter une vidéo qui est un petit peu en dehors de ce que j'écoute normalement. Puis ça fuck tout mon espèce de séquence par après.
Ben, l'algorithme. Là, vraiment qui te suggère des vidéos.
C'est ça, il est trop puissant, je trouve. Là, il s'apparente beaucoup plus à celui-là que TikTok maintenant utilise, là, qui est très, très puissant, qui va rapidement là, te diriger vers ce que tu aimes, entre guillemets.
Oui, oui, parce que des fois, ça prend juste, exemple, tu vas juste flusher 2-3 vidéos d'un même sujet, puis là, bizarrement, il te n'emporte plus de ça. Mais si tu veux qu'à y retourner, puis faire une recherche vraiment contextuelle sur le sujet que tu voulais... Ben là, il va revenir avec ça.
Et en plus, t'es submergé de vidéos. Là.
Oh oui, donc on est un peu près avec ça. Fait que, ben voilà à quel point que Meta se trouve à dire quelque chose et à ne pas respecter qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est loin d'être la première fois qu'on parle vraiment de ce sens-là, de la plateforme Meta. Puis on dirait d'année en année, on dirait que c'est pire que pire, d'une certaine façon. Parce que tu vois qu'on dirait que c'est de plus en plus hors contrôle. Puis on voit que Meta essaie de vraiment de porter des grosses chaussures et de ne pas vouloir s'impliquer. De façon générale. Donc, tu sais, on voit que si on veut vraiment juste aller ramasser du cash dans plein de pays, puis pas vraiment s'impliquer, pas investir. Hey, tu sais, moi, quand j'ai vu là, qu'il disait qu'il avait investi énormément au Canada en versant des sommes de 250 000 $ là, c'est pas des millions, là. C'est pas 250 millions, 250 000 $
Et puis le nombre de médias qu'il a divisé. Là,
on comprend que la loi est passée, puis elle a bien fait de passer d'une certaine façon, parce qu'avoir une compagnie qui fait juste ramasser du cash pour ramasser du cash, puis vraiment pas vouloir s'impliquer. Donc, est-ce qu'on devrait mettre Facebook de côté? Ben, tu sais, est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont faire ça? Est-ce que ça prendrait juste un concurrent plus intéressant pour arriver à...
Ça va être dur de pousser le roi de la montagne, là.
J'ai un avis là-dessus, moi.
Vas-y.
Moi, je pense que, dans le fond, éventuellement, Facebook va être nationalisé. Ou va être, dans le fond, va devenir public. Puis qu'il y a, dans le fond, potentiellement que ça va... Qu'il va y avoir de la pression un peu partout parce que c'est pas quelque chose qui va disparaître. Premièrement, c'est trop énorme, c'est dans ça. Le fond. Je veux dire, les MySpace de ce monde qui ont disparu, c'était pas de l'envergure de ce qu'est Facebook maintenant, puis toute la structure. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va potentiellement rester au-delà de ce que c'est présentement. Moi, je pense que c'est là que ça devrait s'en aller.
Pour notre génération, c'est un outil de la décennie, là, de la dernière décennie.
Absolument.
Là. Les jeunes sont moins là-dessus, on le sait. Oui, on se fait souvent dire là, c'est Facebook, c'est boomer. C'est
les WhatsApp là, qui sont beaucoup utilisés.
Mais vrai, la nouvelle génération est plus sur Instagram, mais ça fait partie de l'univers de Meta. Donc, pour eux autres, c'est juste les clients sont ailleurs, tout simplement.
L'important, c'est le temps d'écran, là, on va se le dire, pour la pub. Oui. That's it, là. C'est l'argent qui vient avec ça, puis les données. Tu sais, on vient d'en parler. Là.
Oui. Ben, c'est bien plus très, très les cher. Données maintenant que d'autres choses.
Les données vont avec le temps d'écran. Tu sais, pourquoi tu te fais proposer encore des vidéos de chat quand t'en écoutais juste un? Parce qu'ils disent, hey, t'as pas, il y a peut-être un nouveau centre d'intérêt, on va l'accrocher. T'sais, ceux qui ont vu le film comprennent un peu comment ça fonctionne, sur comment l'algorithme fonctionne pour vous garder actif. Oui. Donc,
Puis Alex, numéro 2 de Facebook aussi, donc on a vraiment qui a été annoncé cette semaine aussi, qui quitte le conseil d'administration de Meta. Donc c'est Madame Sheryl Sandberg, donc vraiment qui travaillait depuis 2008 vraiment avec Mark Zuckerberg sur la plateforme. Donc bye bye pour Sheryl, donc à l'âge de 54 ans. Pour Facebook. Donc, je sais
pas. Parce qu'elle a une autre carrière devant elle.
Ou elle peut-être juste décider de profiter de la vie.
Des sous de côté, je pense qu'elle en a. Ça devrait être correct.
Ouais, probablement plus que des sous.
Voilà, je veux rappeler à nos auditeurs que si vous voulez, ben, CJMD, on a une application qui est disponible sur le Play Store et sur le App Store. CJMD, faites juste indiquer ça. Vous allez pouvoir écouter les émissions en direct. Vous allez pouvoir écouter les podcasts, accéder à la programmation. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Donc, rendez-vous sur le App Store ou sur le Play Store pour télécharger l'application de CJMD. Et là-dessus, ben, nous, on change de sujet puis on s'en va jaser de jeux vidéo avec ma chronique Jimbo Tech.
Rétro-technologie, jeux vidéo, c'est Jimbo, Jimbo Key, Jimbo Tech, oh yeah!
On va jaser de Xbox, c'est un petit peu plus... ça fait un petit bout que j'avais pas jasé de Xbox. Je sais pas si je vais en jaser en positif, par exemple. Mais ils ont annoncé un nouveau jeu d'Indiana Jones qui s'appelle finalement Indiana Jones and the Great Circle, qui est annoncé pour 2024. C'est impossible que ça sorte en 2024. Et qu'est-ce que j'ai vu des extraits, je vous le dis tout de suite. C'est impossible. C'est développé par Machine Games. Donc, c'était censé être vraiment un jeu de Bethesda, mais il faut comprendre que finalement, c'est un simple éditeur dans ce rôle-là, finalement, pour Bethesda.
Fait que c'est un third party.
Bien, à vrai dire, souvent dans le jargon du jeu vidéo, on va appeler ça un second party exclusif. Donc, ça veut dire que Bethesda, qui appartient à Microsoft, donc a signé une entente avec un développeur de jeux indépendant pour faire une exclusivité, donc un jeu exclusif à la plateforme de Xbox. Mais à vrai dire, c'est pas juste sur Xbox que ça va sortir. On s'entend, ça sort sur PC et ça sort aussi sur Steam aussi, parce que tous les gros projets de Microsoft maintenant sortent sur Steam parce que les gens vont pas sur le Windows Store pour télécharger les jeux de Microsoft. Donc, nécessairement, on les offre ailleurs. Et puis, ben, je pense qu'il y avait comme pas trop le choix de faire ça. Donc, pourquoi que je dis... Parce que, dans le fond, durant la conférence, donc c'est le Developer Conference que Microsoft fait à chaque début d'année, on a présenté des petits mini-extraits du jeu Indiana Jones. Et moi, souvent, quand je vois à peu près 2 minutes à 3 minutes d'extrait, puis qu'on voit pratiquement pas de jouabilité, ben, tu sais, vous allez comprendre que je doute énormément que le jeu va sortir en 2024. S'il sort, ça risque d'être très décevant, parce qu'on semble juste avoir mis une emphase sur les graphismes et sur la présentation et sur les cinématiques. Et si c'est retardé, ben on risque d'avoir peut-être quelque chose qui va être quand même très bien. Faut comprendre qu'à date, si tu veux faire un jeu à la... parce que tu sais, moi, souvent, quand je voyais les extraits, ça me faisait juste penser à Uncharted sur PlayStation. Et on comprend qu'Uncharted, c'est très, très inspiré d'Indiana Jones.
Ça date aussi.
Absolument.
Un peu, donc.
Oh oui, c'est vraiment... beaucoup de gens disent qu'Uncharted, c'est comme l'Indiana Jones nouveau genre.
Exactement. Donc là, c'est un peu le contraire. Et le jeu, il est annoncé de façon exclusive pour l'instant. Donc, il n'y a pas d'autre plateforme qui est annoncée pour l'instant. Est-ce qu'on voit peut-être les jeux de Microsoft peut-être atterrir sur les plateformes de PlayStation pour 2025-2026? Peut-être, j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'argent qu'on va faire. Mais on s'entend que c'est surtout pour combler donc les jeux qu'on offre jour 1 sur le Xbox Game Pass. Donc, évidemment, pour maintenir un abonnement à peu près à 18$ par mois, ben, il faut comprendre que ça te prend des munitions, ça te prend des jeux exclusifs aussi. Et ça, c'en est un, donc, qui est annoncé pour... ça serait pour l'automne 2024, mais je vous le dis tout de suite, ça risque d'être retardé, ce beau projet-là.
Fait intéressant, si vous avez écouté justement, entre autres, les vidéos et que vous entendez la voix d'Indiana Jones, qui est, dans le fond, nul autre que celle de Troy Baker. Troy Baker qui fait la voix de Joel dans The Last of Us, donc qui, évidemment, a joué dans même, a eu un petit rôle dans la série elle-même. The Last of Us 2, maintenant, la version remake qui est disponible.
Ouais, ben à vrai dire, je vais en jaser dans un petit instant, mais je voulais juste compléter avec la conférence de Microsoft, parce que finalement, au final, il n'y a pas eu des énormes annonces durant la conférence, mais au moins, on a eu deux dates de sortie, mais Elden Indiana Jones, que je vous dis que ça me surprendrait beaucoup pour 2024, mais on a annoncé finalement la date de sortie de Hellblade 2. Donc, c'est Sionas Saga. Ça fait plusieurs années que Microsoft fait vraiment beaucoup de marketing pour ce jeu-là. Donc, c'est annoncé pour le 21 mai prochain. Donc, sur la Xbox Series X, S, PC, Xbox Game Pass, jour 1. Hellblade, le premier. Moi, je l'ai joué au PlayStation. Donc, c'est un jeu de Ninja Theory. Ninja Theory, qui est quand même un bon développeur de jeux, qui ont fait des jeux vraiment souvent aussi en association second party, exemple, pour PlayStation. Il y en avait sorti quand même beaucoup. Mais Hellblade, donc, ça, c'est le dernier projet qu'il avait fait de façon solitaire, de façon indépendante. Et à partir de là, ben, c'est Microsoft qu'ils ont acheté.
Of course.
Et à partir de là, ben là, on veut avoir quand même une suite, mais là, c'est une suite qui est exclusive. Et il faut comprendre que le premier Hellblade, c'était pas un jeu qui était long, là. C'était un jeu de 6 heures, à peu près, là. Donc, d'avoir fait autant de marketing sur un jeu qui a été annoncé il y a 4 ans, et puis qui va sortir jour 1, je comprends pas pourquoi on a fait autant de jeux, vraiment autant de marketing sur ce jeu-là. Puis de qu'est-ce que j'ai vu, vraiment, la jouabilité a de l'air à peu près la même que qu'est-ce qu'on avait du premier. Donc, c'est un jeu qu'on va appeler expérience. Donc, c'est pas un jeu qui a énormément de jouabilité. On avance, on entend des sons, on entend des voix, mais je vous le dis, moi, perso, là, quand j'ai écouté ça, il ne m'intéresse pas, le jeu. Il n'y a pas de l'air si intéressant que ça. Il y a de l'air très dark. La jouabilité n'a pas de l'air si exceptionnelle que ça. Donc, nécessairement, ça fait partie des jeux gratuits qui vont être offerts par l'Xbox Game Pass. Je prévois pas plus que 10 heures de jeu.
C'est ça que j'allais dire, là, mon homme aussi. Là, un petit peu plus que le premier, mais pas bien, bien plus.
Pas bien, bien plus. Mais l'expérience a de l'air beaucoup plus grandiose, par exemple. Donc, au moins, on a voulu vraiment peut-être améliorer la présentation, rendre ça encore plus au goût du jour en termes de graphiques, parce que oui, les graphiques sont excellents. C'est vraiment, ça, on semble avoir mis tous nos efforts sur les graphiques du jeu. Et il n'y a aucune sortie physique aussi du jeu qui est prévue, donc pour Microsoft. Donc, on commence à voir ça, mais moi, je pense que j'ai ma petite hypothèse en lien avec ça. Parce que, vous le savez, c'est pas un jeu qui va être long. Et d'avoir une sortie physique, des fois, d'un jeu qui dure 5 à 10 heures, ben tu sais, tu vas comprendre que tu peux passer le disque à d'autres personnes pour pouvoir faire un jeu, pour pouvoir jouer à l'expérience. Donc, on dirait que tous les jeux, maintenant, qui ont à peu près moins de 10 heures de gameplay, on dirait que les compagnies sont de plus en plus à... Ouais, on va-tu le sortir en format physique? Pas sûr, ça va être rentable.
C'est pas
long, 10
heures de gameplay. Mais c'est pas rien que ça, c'est comment est-ce qu'ils vont le vendre aussi? C'est souvent là, parce que tu sais, ils vont-tu le vendre, mettons, 50$, puis ils vont se faire taper dessus parce qu'ils l'ont vendu trop cher?
Ça, c'est un jeu à 70$.
Ben, tu sais, c'est ça, je dis, tu sais, à 70$ pour un jeu de 10 heures de jeu, on commence à dire, ça vient cher de l'heure.
Ben, ça fait pas mal Nintendo, un peu, ces bars. Puis j'ai envie de dire, ça fait aussi Ubisoft, vraiment, qui a suivi ça avec son dernier Prince of Persia, qui vient juste de sortir, ça fait pas très longtemps. Donc, un jeu qui est en 2.5D, et puis qu'on demande quand même 69,99 canadiens pour un jeu d'à peu près une vingtaine d'heures. Et là, toi, JS, toi, t'as essayé la démo qui est disponible.
Ouais, exact. J'ai fait deux fois le tour de la démo en une heure. Donc, c'est pas très long. On a quand même accès à tout ce qui est les petits éléments, le fun. Donc, on a quelques petits pièges à éviter, comme dans les Prince of Persia. Moi, c'était la première fois que je jouais à ça, mais j'ai vu beaucoup d'amis jouer là, souvent là, quand j'étais plus jeune. Ça fait quand même 11 ans, justement, qu'il n'y avait pas de jeu qui était sorti.
Oui.
Puis le premier opus, tu sais, sorti en 89 après ça. Il y a eu quelques petits ports par-ci, par-là. Puis genre, début 2000, 2003, 2004, je me trompe pas. Là, on a eu la nouvelle mouture de Prince of Persia. On a eu quelques opus au travers de ça. Là. En 10 ans, on a eu quelques-uns.
Oui.
Mais beaucoup de plaisir. Metroidvania. Ouais. Donc, ceux qui trippent sur les Hollow Knight et compagnie, Axiom Verge, vous allez aimer ça. Tu sais, le gameplay est le fun, sauf qu'on dirait que des fois... Tu sais, t'as comme un bouton apaisé pour débloquer des pouvoirs spéciaux, mais si tu le cliques dessus, c'est ton bouton pour bloquer. Donc, si tu vas vite avec ton bouton attaque et que tu t'appuies sur le même bouton en même temps, ben, tu fais ton pouvoir spécial en même temps. Fait que ça, je trouve que c'est un petit peu poche.
Okay.
Mais sinon, tu sais, le reste du jeu est super écœurant. Moi, je pense que ça va être bien le fun, mais tu sais, moi, je suis un gamer cheap, là, tout le monde le sait. Je ne paierai pas 70$ pour cette version-là qui est de base. Donc, la version de luxe est à 80$.
OK.
Ça devrait être un jeu qui est à 50$, mais il est super beau. Là. Tu sais, je ne vous dis pas de ne pas l'acheter, mais allez jouer aux démos, jouez-le deux fois. Puis, dans le démo aussi, là, on dirait que ça... La manière que le jeu est fait, là, je vais vous le réexpliquer, là. La manière que le jeu est fait, c'est comme un vieux jeu PS3. Donc, tu sais, ça me dérange pas qu'on explore le vieux gameplay. Ça, c'est parfait. Sauf que t'es pas obligé de me présenter un vieux démo pour me faire aimer le vieux gameplay. Tu sais, on se rappelle tous de nos démos de PlayStation 1. T'achetais un disque, genre, qui venait avec une revue.
Mm-hmm.
Tu jouais 5-10 minutes au jeu. tu pouvais le rejouer à l'infini. Là. Versus que là, maintenant, la grosse mode, c'est les trials de 2 heures que tu as accès au jeu complet. Tu pars le jeu du début ou d'une certaine partie pour pas qu'il y ait de spoil et tu promène dans l'univers et t'apprécies là, pleinement, justement, le plein potentiel du jeu. Là, on est comme entre deux eaux, là, entre l'arbre et l'écorce, on sait pas trop quoi faire. Donc, tu sais, le jeu est bien coté. Donc, c'est les gens ont du plaisir. Je pense que tu sais, il va avoir quand même un 15 à 20 heures de ce que je comprends si on veut jouer à la campagne principale puis tu sais, faire le jeu sans tout explorer. Donc, tu sais, pour 30 heures, pour 70$, t'sais, le dernier, Baldur's Gate, m'a coûté 85$ là, avec les taxes, plus les taxes. Puis t'sais, j'ai déjà 70 heures de fête, puis t'sais, j'ai même pas fait le quart du jeu encore. Donc t'sais, là, je vais à l'extrême en comparatif. Mais sortez déjà à 45. Là, t'sais, Sea of Stars, il est sorti gratuit, mais tu pouvais l'acheter si tu veux. Là, il est sorti en copie physique là, en précommande. Et t'sais, c'est intéressant, mais les prix, je trouve. Tu sais, si t'es pas un personnage de Mario super populaire, que peu importe, tu sais, comme Metroid Prime, pas Prime, mais le Undead, là, qui est sorti, là, il vaut super cher.
Dread.
Il est aussi cher, sauf que tu payes pour une licence, tu sais, qui a du vécu. Ça aussi, ça a du vécu, mais ça fait 11 ans qu'on n'a pas entendu parler, donc, tu sais, c'est pas que le gros prix, là. Je comprends pas, moi, les prix, sérieusement.
Peut-être
là,
essayer de donner, tu sais, de redonner vie à cette franchise-là, qui tu sais, même, tu sais, parce qu'il avait tenté au cinéma de la relancer avec Jake Gyllenhaal qui était dans le rôle principal, puis encore là, tu sais, malgré que c'était une production intéressante, ben, elle sortait pas de l'ordinaire, tu sais, fait que des fois, je trouve ça triste quand on essaie de s'attaquer à quelque chose de bien, parce que à l'époque, là, tu sais, moi, Prince of Persia, là, j'ai des souvenirs, là, écoute, mémorable avoir joué à ce jeu-là sur PC là, pendant des années. Là.
Le premier opus.
Là,
c'est une révolution. Là.
Exactement, c'est une révolution pour l'époque. Puis là, on dirait que c'est souvent ça. C'est qu'on on nous balance du remâché un peu comme ça. Là, où est-ce que ça pourrait être mieux?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Et somme toute, là, c'est très bien poli. Il y a des petits trucs que tu peux rajouter, comme tu as comme des amulettes que tu peux rajouter sur ton collier qui peuvent te donner différents pouvoirs. Donc, tu peux jouer de différentes manières, tout dépendant de ton style de jeu. Ça, j'aime ça. Donc, c'est à essayer, mais pour vrai, faites le démo 2-3 fois. Moi, ça me donnait le goût juste de patienter encore un an puis qu'il soit en spécial. Puis là, je vais le jouer parce que à date, tout le monde a du plaisir. C'est pas un flop comme certains pensaient. Il y a une mini-controverse avec de l'intelligence artificielle. Tous les testeurs qui ont testé le jeu avant que le jeu sorte, il y a une semaine, ils se sont rendus compte que Krim, il y a un personnage. Il n'y a pas de nom en dessous pour la voix. Puis ils se sont rendus compte que c'est l'intelligence artificielle du studio qui ont laissé de là. Puis que le jeu, mais ils ont oublié de mettre une vraie voix dessus. C'est pas vraiment « Ah, on veut que ce soit de l'intelligence artificielle, c'est on s'est fourré, puis là, ça va venir dans les prochaines patchs. » Donc, tu vois que ils ont travaillé, puis ça va être dans l'avenir, ça va sûrement être ça. Là. Beaucoup de voix avec l'intelligence artificielle, donc on paye pas des gens pour ça. Ça, je trouve ça dommage, parce que c'est un jeu à 70, ben je m'attends à ce qu'il y ait des gens...
Oui, c'est ça. Ben on prétend beaucoup là, du côté d'Ubisoft, là. Puis, tu sais, 70$, tu sais, non, c'est un jeu à 40$. Moi, je pense que ça aurait été un succès, mais ça ne soit pas un succès commercial, loin de ça. On demande trop cher pour le jeu, tout simplement. moment. Même chose pour Metroid Dread du côté Nintendo. C'est pas un jeu qui va avoir vendu énormément. Il est même trop cher pour le jeu. On l'a baissé à 50, 55 à certains moments, mais en même temps, on est loin de, exemple, du côté Nintendo. T'sais, tu compares ça avec Super Mario Odyssey, hey, on est loin en maudit là, pour le prix demandé du jeu. Donc, les développeurs de jeux, là, surveillez vos prix parce que ça fait toute la différence.
T'sais, parce que c'est pas parce que c'est pas des bons jeux, mais est-ce que c'est un jeu qui, pour la quantité de jouabilité ou de temps de jeu disponible. Mm. Tu sais, je veux dire, on 70$ pour juste parce qu'il est écrit Prince of Persia dessus, ça me gosse un peu.
À 45, si vous étiez un grand fan, vous l'auriez recommandé à 100%.
C'est ça, exactement. Pour moi, la critique d'un jeu, c'est en fonction du prix que tu demandes. Là, puis aussi la qualité de production. Donc, c'est ça, exemple, j'ai terminé Spider-Man 2, ça vaut 90$ comme jeu. Mais tu n'as pour 90$, la production est grandiose, le côté technique, à quel point c'est immersif comme jeu.
Le scénario est tellement bon. C'est le premier autant que Miles Morales, puis là, tu sais, le deuxième.
C'est ça, tu sais, vraiment, tu comprends pourquoi ça a coûté 90$. Tu le vois tout de suite, instantané. En 30 minutes de jeu, tu as compris.
Exactement.
Mais là, on est loin.
Je l'ai refait deux fois pour être sûr. J'ai trouvé que ça dormait fini vite. T'sais, à la fin du démo, tu arrives comme vers un boss final. Finalement, pas de boss. Tu vois un peu quelques extraits, puis merci d'avoir joué. D'après moi, j'ai pas fait ça comme il faut. J'ai dû skipper des parts.
Non, c'est un démo.
Quasiment comme un cahier t'interrompt.
C'est vraiment un démo des années 90-2000, plus de 2000 que tu, justement, là, tu fais juste jouer 15 minutes au jeu. T'apprécies pas. C'était mieux dans le temps que d'aller au club vidéo puis checker le derrière de la pochette et dire « Ah, je vais l'acheter. » Puis tu t'en allais. Non, ça servait à ça, les démos. Là, on est rendu en 2024. Donc, il faut faire d'autres styles de démos. On lance le message à Ubisoft et aux autres compagnies. On en veut des démos encore, mais plus intéressant que ça.
C'est ça. Ben merci JS pour ton petit topo sur Prince of Persia.
Ça fait plaisir.
Et si je continue, ben en actualité dans les jeux vidéo cette semaine, on a entendu qu'il va y avoir un film sur le jeu d'horreur qui est sorti au PlayStation 4 qui s'appelle Until Dawn. Donc ça a été annoncé par PlayStation Productions et Screen Gem, donc qui est c'est des studios qui appartiennent à Sony. Mm-hmm. Et puis ben c'est le réalisateur vraiment du film Chasm, donc David F. Sandberg qui va réaliser le film. Donc c'est pas le gros réalisateur. Hein? Mais il faut comprendre, mais vraiment pour remettre en contexte les auditeurs, Until Dawn, c'est un jeu d'horreur. Donc, tu as 8 personnages et le but principal de ce jeu-là qui dure à peu près 9 à 10 heures à peu près, c'est de faire en sorte que tu gardes tes personnages jusqu'à la fin de l'aventure. Donc, c'est tout plein de choix et d'actions qui font en sorte qu'on peut perdre nos personnages tout au fil de l'histoire du jeu. Donc, j'ai hâte de voir comment on va adapter ça. Mais tu sais, il y a une espèce de petite nostalgie de ce jeu-là quand même. Je pense qu'il a marqué quand même bien des gens, parce que souvent, quand j'en parle, tout le monde sait « Ah oui, Until Dawn » qu'il y avait eu au PlayStation 4. Eh oui, c'était un jeu donc qui date à août 2015 pour la sortie officielle.
Il y a la version PlayStation VR de, dans le fond, Rush of Blood, qui est quand même pas si mal aussi.
Oui, on a réutilisé la franchise pour faire des spin-offs un peu. Puis il y a eu un deuxième aussi pour le PlayStation VR 2. Donc, mais voilà. Et là, il y a un film. Donc, on veut continuer à pousser cette franchise-là. Mais est-ce qu'on va continuer à la pousser, pour arriver à faire peut-être un deuxième jeu Until Dawn? Là, ça se pourrait aussi.
La division Screen Gems, c'est que c'est quand même une division qui est bien éprouvée dans ce côté-là pour Sony, parce que c'est eux autres qui sont derrière toutes les Underworld. Ouais. Donc, ils ont déjà beaucoup d'expérience dans ce type de film. Presque expérience.
Horreur, expérience. Mm-hmm. Oui, absolument. Donc, c'était presque sûr que ça allait chez Screen Gem.
Oui, absolument. C'est vraiment, tu sais, Sony, quand ils choisissent ce type de production-là, c'est tout le temps Screen Gem qui est derrière tout ça.
C'est ça. Donc, ça risque d'être un film de 35 millions de dollars à peu près.
Sensiblement dans ce coin-là, parce que, tu sais, on regarde, si TriStar va faire d'autres types de productions. Columbia, ça va être d'autres types de productions. Columbia, c'est en général, c'est plus des comédies.
Oui, ou les gros films les plus gros. Là,
exactement.
C'est ça, oui, exact. Je veux parler aussi, donc je change de sujet. Écoutez, je vais continuer avec Sony, donc parce que vraiment, il y a eu la mise à jour de Last of Us Part 2 qui est disponible maintenant pour le PlayStation 5. Donc, si vous êtes déjà propriétaire de la version PS4, vous allez comprendre que pour avoir la version mise à jour PS5, un frais à débourser, donc c'est 15$ canadiens qu'on se trouve à demander. Mais contrairement à The Last of Us Part 1, donc qui est un jeu à part entière, donc il n'y avait aucunement la possibilité de pouvoir mettre à jour une version que vous aviez déjà achetée. Donc ça, au moins, c'est plus intéressant pour cette deuxième version-là, qu'on peut juste acheter une mise à jour pour 15$. Et on a ajouté, évidemment, ben, un nouveau mode de jeu aussi, un peu plus roguelike. On a amélioré, donc on a ajouté aussi vraiment un peu, désolé l'anglicisme, mais le behind the scene, donc beaucoup d'extraits dans le jeu, donc et même des endroits qu'on a enlevés dans la, vraiment dans le jeu, qu'on peut même jouer aussi, pas juste visionner une vidéo, mais jouer aussi à ces segments-là. Donc, ça peut être intéressant pour les vrais fans de The Last of Us Part 2, mais à vrai dire aussi, il faut comprendre qu'il y avait déjà eu une mise à jour de fait pour les gens qui possédaient une PlayStation 5, donc c'était une mise à jour de résolution qui avait été fait. Donc, juste pour permettre aux gens d'avoir une meilleure résolution et d'améliorer la performance du jeu. Et ça, c'est gratuit. Mais là, si vous voulez vraiment avoir aucun temps de téléchargement, le fait que la manette, ça soit mieux adapté pour la manette avec des modes de jeu de plus, ben, vous allez comprendre que le 15$, c'est ça qui vous permet d'aller chercher. Ou sinon, ben, vous pouvez acheter The Last of Us Part 2 en version physique PlayStation 5 pour 64,99$.
Dans la même veine aussi, important à noter que la deuxième saison de Last of Us 2 commence sa production sous peu, début février, okay. Dans le fond, dans les environs de Vancouver.
Tu peux jouer à la guitare aussi. Ceux qui ont aimé la petite portion Git, là, t'as vraiment un module juste pour ça. Puis pour ceux qui ont fait l'erreur d'avoir précommandé le jeu, la patch, justement, puis tu te dis, ah, ben, le jeu coûte 70, mais je vais avoir mon remboursement. Non, ça ne s'est pas fait automatique, mais Sony va vous rembourser. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là, pensant que, vu qu'il y avait déjà la version, que justement l'achat, je ne sais pas si vous me suivez, là.
Non.
Donc, c'est exemple, tu dis, ah, je veux avoir la nouvelle version.
Oui.
Elle coûte des sous. Fait que quand tu t'en vas sur ton PlayStation Store en précommande, tu n'avais pas l'option de précommander ton 15$ canadien de plus. Donc, les gens se disaient, ça va se rajouter automatiquement, mais non, se sont fait tout biller.
OK.
Le 19. Donc, Sony a eu beaucoup, beaucoup de demandes et donc accepte justement les remboursements. Donc, fournit la différence. Je ne sais pas si c'est en crédit. Je n'ai pas fouillé un peu plus. Là.
Non, habituellement, c'est un remboursement.
Ça va être un remboursement sur la carte, ouais, là, selon moi, de ce que je voyais. Mais bref, n'ayez pas peur. Vous n'avez pas perdu tout votre argent.
Ben, c'est toujours une question de vraiment de faire du marketing. Mais ils ont fait du marketing, pas sa mise à jour. Il faut comprendre que. C'était comme. Ben pour eux autres qui l'ont acheté, par exemple, version originale. Donc, si vous l'avez même en format disque PS4, vous pouvez acheter la mise à jour. Ça vous prend juste le disque dans votre console, par exemple, pour pouvoir jouer avec la mise à jour.
T'sais, pourquoi est-ce qu'on en parle aussi souvent de cette série-là, puis de cette série de jeux-là, depuis aussi longtemps? Ben, c'est parce que c'est excellent. Fait que si jamais vous ne l'avez pas fait encore, là, pour ceux-là qui viennent de sortir d'une boîte, là,
ouais.
Faites-les.
Oui, parce que oui, jeu exceptionnel, 10 sur 10, masterpiece.
Oui, moi, c'est vraiment un masterpiece. Là.
C'est dans les jeux qui font partie un peu de films. Le Spider-Man, tu n'as parlé, c'est quasiment un film en jeu. Mais Last of Us, c'est ce genre de jeu vidéo aussi qui fait la même chose.
Il y a des émotions là-dedans. Là. L'histoire est vraiment, tu sais, pour ceux-là qui aiment les trames narratives intéressantes, puis tu sais, des rebondissements dans des histoires, là, vous allez être servi du début à la fin, sérieusement. Le premier était très bon, mais tu sais, l'univers un petit peu plus petit. Puis dans le deuxième, ils ont tellement donné une belle expansion à l'univers, puis un potentiel pour ce qui pourrait suivre.
Ah oui, puis c'est vraiment le jeu, il est juste bourré de rebondissements. Donc, on sait jamais qu'est-ce qu'on va faire. On sait jamais à quoi s'attendre. Et puis, énormément de twists. Donc,
Ça surprend souvent dans ce jeu-là. Là.
Voilà. Oui, exactement. Chers auditeurs de CJMD, je vais vous rappeler que c'est aujourd'hui le fameux bingo de CJMD. Donc, chaque dimanche, dès 15h, on fait tirer 3 000$ au total en prix. Les cartes de jeu, c'est 11,75$. Et tout ça, c'est en formule dynamique, diffusée sur YouTube, diffusée sur nos applications respectives. Et pour tous les détails, ben, c'est aussi simple que d'aller consulter la page de CJMD au 969fm.ca. Et là-dessus, ben, nous, ben, le show, il finit bientôt. Donc, on termine exclusivement aujourd'hui à 14h30. Mais après la pause, ben, je vous fais un topo sur les nouveautés du côté de Samsung, parce que c'était le Unpack Galaxy mercredi dernier, donc du côté de San Jose en Californie, et on a annoncé tout plein de nouveautés pour les derniers téléphones de Samsung. Donc restez là, parce que vous écoutez les Technopreneurs.
969FM.ca CJMD 96.9. Ôtez-vous de là. CJMD 96.9.
Oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 21 janvier 2024.
Je te relayais le signal de JS.
Oui, ben oui, je l'ai pogné ton signal.
Merci, Guillaume.
Et puis, ben merci d'être là, merci de participer à l'émission et merci aussi d'aller vraiment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, c'est là pour ça, notre page Facebook, Les Technopreneurs. Et là, on s'en va pas dans un segment entrepreneurial, on va recommencer ça la semaine prochaine avec aussi le concours Face au Dragon. Donc, on vous tient au courant de tout ça sur notre page Facebook. Mais mercredi dernier, donc, il y a eu une grande conférence du côté de Samsung, donc le Samsung Unpack. Ils font ça toutes les années, en début d'année, et cette fois-ci, c'était à San Jose, en Californie. Donc, que finalement, Samsung voulait prendre le temps de présenter qu'est-ce qui s'en vient avec les téléphones intelligents Galaxy. Et là, c'était à la mouture les S24. De quoi vous croyez qu'on a parlé durant la conférence?
Intelligence artificielle.
C'était-tu l'intelligence artificielle qui a fait ça?
Oui!
Absolument. Si on n'a pas mentionné le mot AI tout le long de la conférence...
Je vais couper son micro.
C'est toi le metteur en onde.
Mais des fois, je ne suis pas vite. Ça me prendrait l'intelligence artificielle pour m'aider.
Écoutez, donc, on est vraiment là-dessus. C'est fou là, parce que je pense qu'on a dit le mot intelligence artificielle au moins 150 fois dans une conférence qui durait à peu près une heure. Donc, faites le décompte. On le dit assez souvent. Et on voulait vraiment donc vous présenter le nouveau Galaxy S24, S24 Ultra, S24 Plus. Donc, c'est les trois nouveaux téléphones du côté de Samsung. On a commencé la conférence et c'était très grandiose. Là. Par exemple, là, je pense que c'est une des premières fois que je vois vraiment quelque chose d'aussi spectaculaire que ça. On a décidé de faire ça dans un aréna. Mais on a vraiment maximisé les écrans, le décor, la façon qu'on présentait les téléphones. C'était très spectaculaire. Puis c'est rare que je me fais surprendre par ça, là, mais ça faisait vraiment très différent de qu'est-ce qu'on est habitué à Apple, à Silicon Valley, là, dans leur...
Qui est très sobre dans leur campus, puis blablabla.
Ouais, c'est ça. Là. Donc là, c'était vraiment pour rendre ça très spectaculaire. Un truc, donc moi je vous résume qu'est-ce qui m'a accroché durant la conférence. Donc nécessairement, je ne parlerai pas beaucoup des spécifications techniques des téléphones, parce que ça, vous êtes assez grand pour aller sur Google ou comme dirait JS, d'aller chez Google pour vous mettre à jour avec tout ça. Mais qu'est-ce qui a attiré mon attention? C'est surtout le fait qu'on a commencé la conférence en disant tous les nouveaux téléphones S24, bon, on vous offre 7 ans de mise à jour. En termes de sécurité, 7 ans de mise à jour de génération de systèmes d'exploitation. Donc, en voulant dire, vos ordinateurs, donc vos téléphones mobiles que vous achetez, ben ils vont être bons en sécurité un minimum de 7 ans et avec aussi la levée de toutes les nouveautés qu'ils vont avoir pour les 7 prochaines années.
C'est drôle, moi, je vois ça un peu différemment. Je vois ça plus après 7 ans, arrangez-vous avec vos affaires.
Ben, à vrai dire, les compagnies ils proposaient au début Google, on commençait avec leur Google Pixel avec 3 ans de mise à jour de sécurité qui était très faible pour des appareils qui valaient 500 à 600 $.
Ben, comme ils ont fait avec les Chromebooks aussi. Là,
ils ont augmenté ça à 5 ans, ils ont augmenté ça à 6 ans pour certains modèles. Mais on s'entend que quand tu achètes un S24, ça coûte quand même assez cher. Là. C'est des téléphones qui se détaillent 1200 $. C'est des super ordinateurs et je vais le mentionner tout le long de ma chronique. C'est pas un cellulaire que vous achetez, c'est un ordinateur. C'est l'ordinateur le plus polyvalent que vous allez acheter à la maison. C'est sûrement lui qui va avoir les meilleures capacités graphiques, meilleures vraiment capacités de calcul et meilleures aussi les plus performants que vous allez avoir pour gérer tout ce qui est intelligence artificielle.
Donc, meilleure résolution d'écran
aussi. Donc, de ce côté-là, je trouve ça très, vraiment très intéressant parce que si tu me dis que tu fais 7 ans de mise à jour, si tu crois réellement à ta machine, tu crois réellement à l'ordinateur que tu nous vends, et le 1200 $, ben, je commence à trouver ça intéressant parce que un téléphone mobile, tu seras pas obligé de le remplacer à toutes les 2 ans pour avoir les derniers outils qui vont être disponibles dans le système. Évidemment qu'ils vont se garder des exclusivités pour leur dernier modèle. Ça, on le sait très bien. Mais est-ce que tu vas être au goût du jour quand même avec ton téléphone? Ben oui, tu vas être au goût du jour. Puis il va être sécuritaire aussi, ton téléphone. Donc, ça au moins du côté d'Android, hein, des fois la sécurité Android, des fois, tu sais, je vous dirais...
C'est plaisant Android parce que tu as plus de possibilités pour jouer dedans, si on veut dire, mais justement, c'est ça son défaut, entre parenthèses, versus Apple.
Bon, on peut le voir comme ça, mais là, du côté de vraiment Samsung, on est associé aussi avec Knox, qui est une grande compagnie de sécurité aussi aux États-Unis. Donc, on travaille vraiment avec eux et on en a parlé quand même à plusieurs fois durant la conférence qu'on mettait une emphase de ce côté-là. En intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a voulu démontrer le plus en début de conférence? C'est la traduction en temps réel pendant un appel.
Ça, c'est intéressant. Puis des deux côtés, en plus. Là.
Des deux côtés. Donc, ça veut dire que je suis en Espagne. Je veux me réserver le table d'un restaurant qui a de l'air super intéressant. Je ne parle pas très bien espagnol. Je sais qu'ils vont me répondre en espagnol. Il y a peut-être peu de chances qu'ils parlent en anglais. Donc, je fais mon appel et il y a une traduction. Donc, l'assistant de Samsung commence en disant « c'est une traduction » et là, on commence à parler. Et là, la traduction se fait en temps réel. Super intéressant. Et devinez quoi? Aucune main est branchée aux données mobiles, au Wi-Fi. On va pas chercher l'information
dans l'appareil,
dans l'info nuagique. C'est vraiment des bases de données que vous téléchargez dans votre appareil selon les langues que vous voulez utiliser. Donc, tout dépendant, là, si vous voulez utiliser la traduction en temps réel comme ça. Et donc, c'est comme avoir un interprète, d'une certaine façon. Vous pouvez le voir comme ça. Et ça, c'est pendant un appel téléphonique. Mais vous allez comprendre aussi qu'on offre aussi cette traduction-là en temps réel, aussi en mode main libre, tout simplement, comme Google avait déjà présenté pour leur Pixel.
C'est comme avoir le YouTuber là, qui parle 50 langues, là, dont tous les dialectes de mandarin et tout le kit, puis qui se promène dans des villes de même. C'est comme l'avoir dans tes poches.
Ben, c'est quand même fou. C'est tout un outil pour les voyageurs, si on s'entend. Parce que là, on parle aussi de 13 langues qui vont t'offertes. Et puis, peu importe donc vraiment de quelle façon vous êtes pogné, là, t'sais, pas de signal, branché sur le Wi-Fi en données mobiles. Non, vous pouvez personnaliser tout ça avant votre départ pour vous assurer que vous allez avoir les langues qui vont déjà être installées dans le téléphone pour vous permettre d'utiliser ces outils-là. Puis, il faut comprendre qu'avec l'info nuagique, ben, le cloud, ben, vous allez comprendre que d'après moi, il y aurait eu des ralentissements en lien avec cette utilisation-là. Donc là, tout ça, vous avez ça dans votre système d'exploitation selon vos préférences.
Il y a des mauvaises langues qui diraient « Hein, il y en a juste 13 langues. »
Mais tu sais, il y a le français, mais j'ai bien hâte de voir un Québécois.
« Va te prendre deux hot dogs et une pointe de pizza pépé.
» D'après moi, ça ne marchera pas. Mais tu sais, ça commence, c'est déjà hot. Fait qu'il va suffire d'augmenter son niveau de français et on va pouvoir bien se faire comprendre à l'international.
Je pense que c'est ça pour tout le monde aussi. Là. Un Parisien qui parle peut-être trop avec son accent aussi, il risque de peut-être...
Mais on risque d'être surpris parce que c'est de l'IA. Donc, oui. Ça va s'adapter, va comprendre les langages.
On va demander aux gens de Sabotage Studio de faire vraiment la base de données pour le Québec.
Ça serait parfait.
Il y a un instant, il y avait un jeu à l'époque qui avait, dans le fond, un Québécois dedans qui s'appelait Jean-Paul Viau.
Oui.
Il parlait en français.
Oui.
C'était un jeu qui était fait en Ontario. Anecdote, c'est tout. Mais... c'est pas une anecdote de vieux pantoute, mais...
Non. Mais... Donc, les fonctionnalités d'assistance de clavardage aussi. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir traduire des messages textes dans une langue que vous choisissez. Et tout ça en temps réel aussi. Aussi, qu'est-ce qu'on a annoncé d'autre durant la conférence? Ben, on a annoncé aussi qu'on pouvait prendre n'importe quel segment d'une photo qu'on a pris pour transformer ça en emoji. Donc, et puis c'est quand même bien fait et c'est rapide. Là, on fait ça genre en même pas 30 secondes. Puis vraiment, tu sais, ta photo, il y a vraiment un certain segment que tu prends, tu décides de la glisser et là, ça te fait un emoji. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. C'est surtout la facilité, vraiment, qui ont démontré qu'on pouvait le faire. Donc, pour rendre nos discussions peut-être un petit peu plus intéressantes en clavardage.
C'est pas le plus grand compétiteur ou un des plus grands compétiteurs de Apple pour rien, Samsung. Là. Ça fait longtemps qu'ils font des téléphones qui sont non seulement performants, robustes, mais qui sont intéressants au niveau technologique. Là.
Oui, absolument. Puis vous allez comprendre que tranquillement pas vite, ben, durant la conférence, ben on a mentionné comme de quoi qu'on... On était vraiment en étroite collaboration avec Google. Donc, souvent, Samsung, avec sa couche Android, c'est un système, oui, d'exploitation de Google, mais on essaie de mettre un peu Google de côté pour démontrer que Samsung avec leur propre couche, avec vraiment leurs éléments essentiels qu'ils installent dans le téléphone, arrivent à faire à peu près la même chose que Google. Mais là, cette fois-ci, on a décidé d'inviter Google sur le stage à venir mentionner à tous les investisseurs aussi de Samsung en mentionnant que non, on travaille vraiment ensemble. Et même Samsung aide Google à optimiser certains processus d'intelligence artificielle. On a parlé aussi d'intelligence artificielle aussi dans Google Car Auto. Donc, Google, que vraiment, donc du moment que vous branchez votre téléphone ou il est en mode sans fil dans votre véhicule. Donc, encore là, pour permettre de pouvoir partager sa localisation en un seul, peut-être, petit clic qu'on va avoir sur l'écran. Donc, exemple, vous recevez un message texte de quelqu'un, vous voulez juste dire, ben je m'en viens, j'arrive bientôt, vous voulez pas utiliser l'assistant vocal, vous faites juste cliquer, partager ma position, et il va voir si vous arrivez bientôt. Donc, intéressant. Vous avez eu un feed, désolé les anglicistes, là, vu que je parle de téléphonie mobile puis la conférence est en anglais, mon fil d'actualité, le fil d'un groupe. Donc, vous êtes sur un groupe sur Messenger, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont communiqué. Ben là, vous allez comprendre que vraiment l'intelligence artificielle va vous rassembler tout ça et va vraiment vous dire, va vous faire un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion. J'ai hâte de voir ça.
Ce que je trouve intéressant, c'est ce genre de choses-là vont se faire sous quel barème, sous quelle structure. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va dénoter qu'est-ce qui est plus intéressant à mettre de l'avant par rapport à d'autres choses? Tu sais, je trouve que le danger un petit peu que je vois, il est là parce que c'est déjà que je trouve qu'il y a plein de monde qui réfléchissent pas par eux-mêmes.
Ouais.
Dans un contexte où est-ce que, tu sais, c'est banal, mais je trouve que c'est une réflexion.
T'as totalement raison.
Tu sais, qu'il y a du monde qui ne réfléchit pas par eux-mêmes, puis si en plus on leur donne des outils
qui résument des discussions,
ben, qui augmentent le fait qu'ils ne réfléchissent pas par eux-mêmes.
Ce qui est dangereux là-dedans, c'est que si ça s'adapte à toi, ou si ce qui est encore plus dangereux, si ça s'adapte à tout le monde, puis ça t'exclut un peu, donc tu vas être victime de la tendance de la société. Ou ton empreinte sera pas nécessairement à ton goût, à toi, selon tes critères, à toi. Donc, c'est ce barème-là, justement, jusque où ces compagnies-là dans l'IA vont être capables de séparer, justement, ces deux côtés-là de la médaille. Est-ce qu'on veut plaire à notre utilisateur ou on veut plaire à nos utilisateurs? Donc, il est là le nerf de la guerre, je pense, en IA, là.
Moi, j'ai toujours Wally dans la tête. Là, on va être les gros tatas sur nos plaques, là, puis on fera plus rien.
C'est déjà commencé.
Ben, à vrai dire, je pense qu'on va voir ça parce que, tu sais, je suis en accord avec vous, mais tu sais, il faut comprendre qu'on utilise beaucoup le mot intelligence artificielle un peu trop de façon exagérée parce qu'en même temps, en réalité, l'intelligence artificielle est là pour s'adapter en fonction de la façon que tu parles, de la façon que tu utilises la plateforme. Puis, tu sais, la façon qu'on voit ça, c'est vraiment juste de l'intelligence, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est on ajoute des bases de données pour rendre les applications plus intelligentes. Mais est-ce que c'est réellement de l'intelligence artificielle?
Ben oui, parce que c'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle, c'est que tu lui donnes de l'information, ben capable de l'interpréter.
Oui, mais en même temps, ils disent ça, mais en réalité, moi, j'ai pas vu encore rien qui fait en sorte que ça vraiment sa personnalité mon expérience. Tu sais, puis les algorithmes d'intelligence artificielle que YouTube utilise ou Google, tantôt on en parlait, on est les premiers à pouvoir comme un peu les fucker très rapidement, juste à cause qu'exemple, tu t'en vas juste enlever trois vidéos que tu es en train d'écouter.
Oui, mais sauf que, tu sais, on est quand même, je veux dire, la structure des algorithmes, comme ils sont structurés là, sont pas, ça fait pas si longtemps que ça qu'on les utilise là, oui, dans le fond, de cette façon-là.
Ils sont vraiment utilisés à des fins publicitaires, à des fins commerciales. Ils sont pas là pour offrir ça à monsieur, madame, tout le monde. Mais de rendre les téléphones plus intelligents, ça, c'est une chose. Mais on utilise un peu trop le mot intelligence artificielle.
Ben, moi, c'est ça. Ce que j'ai peur, c'est que plus ton téléphone va être intelligent, moins la personne qui va l'avoir dans les mains va l'être.
Oui. Mais ça, je pense...
Ça, on dit ça depuis le mot téléphone intelligent.
C'est ça. Depuis le mot informatique, à la limite, on peut dire ça. Donc, on a parlé aussi de l'application Notes, donc aussi qui est disponible dans les téléphones Galaxy. Donc, une mise à jour de son application native aussi qui va permettre donc l'ajout de prise de notes et de transcription aussi qui va se faire dans plusieurs langues. Donc là, de la façon qu'on voulait le montrer aussi, on l'a montré aussi avec l'application Message. donc l'application native pour juste texter, donc en format RCS ou en format SMS de base. Donc, je peux changer de langue, je peux écrire en espagnol puis envoyer mon message en anglais. Je peux tout faire ça en temps réel très rapidement. Et dans l'application Notes, qu'est-ce qu'on voulait démontrer? C'est que je prends tout plein de notes puis c'est mal classé, c'est tout le texte est tout collé, toutes mes idées sont collées et là, on va pouvoir utiliser une structure pour vraiment classer et optimiser ma prise de notes. Et ça, c'est vraiment de la façon qu'on le démontrait. Il y a plusieurs même styles qu'on peut choisir aussi. Donc, c'est personnalisable, tout ça. Vraiment très intéressant pour quelqu'un, un journaliste, vraiment qui se promène un peu partout, qui voyage beaucoup, qui a besoin d'interagir en plusieurs langues différentes.
Mais tu sais, là, ça revient beaucoup à ce que tu disais au départ, que tu sais, l'appareil que les gens vont avoir dans les mains est un appareil excessivement performant qui permet toutes sortes de choses que même certains ordinateurs seront jamais capables de faire. Parce que, tu sais, le fait d'avoir un écran tactile, c'est juste la banalité de tout ça sur ton téléphone.
Ben oui.
Ça change beaucoup au niveau de la rapidité, dans le fond, d'action. Parce que moi, avoir un ordinateur avec un écran tactile, j'en ai un pour le travail. Je vais te dire franchement, ça change beaucoup la dynamique avec laquelle tu l'utilises. Donc, tu sais, de faire de l'aborder de cette façon-là, je trouve ça super intéressant.
Mm-hmm. Oui, puis là, on arrive au point qu'on veut vraiment utiliser l'intelligence artificielle aussi pour distinguer les voix aussi dans des prises de notes, quoi que ce soit. Donc, exemple, j'enregistrais JS lors de meeting, ben il pourrait vraiment tout m'écrire ça en texte, puis vraiment même marquer JS à côté, deux points. Écrire qu'est-ce qu'il dit durant la conversation vocale qu'on a enregistrée et puis vraiment me transcrire ça en texte et même vraiment bien mettre ça, là, t'sais, vraiment bien me structurer ça dans un document texte que je pourrais réutiliser plus tard pour amener ça.
Celui-là existe déjà, mais pour transcrire du vocal au texte, mais sans séparer les gens. Donc ça, c'est un plus. Mettons, je parle juste à un CA, tu mets ça sur le téléphone, tu n'as même pas besoin de retranscrire. Là. Tout le monde est bien catégorisé, puis tu as toutes tes notes manuscrites par la voix.
Ouais.
C'est magique.
Ben oui, absolument.
Encore là, comme tu disais, avec un journaliste, c'est rapidement, c'est une entrevue, puis il discerne les voix tout de suite. Si tu, dans le fond, tu perds ça à un micro un peu meilleure qualité sur ton téléphone qui devient externe, tu viens d'enlever une bonne partie de la technique qui est disponible, qui est nécessaire, je veux dire, pour faire ce genre de choses-là.
Là. Ben oui, absolument. Donc, très intéressant de voir où qu'on s'en va aussi dans l'évolution du système d'exploitation. Et là, Samsung a commencé leur conférence avec tout ça. Hein. Ils n'ont pas commencé à présenter l'appareil, ils n'ont pas commencé à parler des spécifications de l'appareil, ils ont juste parlé de qu'est-ce qu'il va y avoir dans le système d'exploitation. Donc, le système d'exploitation, chers auditeurs, ben, c'est le cerveau hein, de votre appareil. C'est comme Windows, donc c'est Android. C'est le chef d'orchestre, c'est lui qui gère tout, vraiment, la gestion de l'énergie, la façon qu'on envoie, vraiment, la façon qu'on calcule l'information, etc., etc. Je vous ai dit que Google et Samsung, donc, ils ont signé des ententes pour continuer à se propulser un et l'autre pour les années à venir. Moi, je pensais le contraire. Je vais être franc avec vous, j'étais sûr que c'était le contraire. Moi, j'étais persuadé que Samsung était pour aller pratiquement avec ses propres systèmes d'exploitation, puis vraiment laisser Google avec son système Android. Complètement contraire. Donc, on voulait vraiment arriver rapidement avec Samsung avec de l'intelligence artificielle, évidemment pour plaire à leurs investisseurs et vraiment démontrer à quel point que c'est une compagnie qui a mis beaucoup d'argent là-dedans. Mais en réalité, toute l'intelligence artificielle que Samsung a présentée était pas mal propulsée par Google et tout ce qu'on a aussi dans les téléphones Google Pixel. Mais on a décidé d'en avoir une exclusive pour les appareils Samsung, et c'est la fonction Circle to Search, qui est propulsée par Google en mode privé. Ça me surprend, là. En mode privé, là. S'il vous plaît.
Of course.
Oui, ouais, c'est ça, Google, le mode privé, on y croit pas, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est quoi Circle to Search? Ben, ça veut dire, c'est simple, c'est n'importe quand, de n'importe quelle façon dans votre téléphone, vous êtes en train d'écouter une vidéo sur YouTube, vous faites pause, et là, vous faites un cercle autour d'un item, d'un accessoire, d'un vêtement, de n'importe quoi, et du moment que le cercle est fait, vous êtes propulsé sur Google et vous avez déjà des images de référence d'un article que vous pouvez acheter. C'était quoi ça? C'était quoi cette plante-là? Vous avez des fiches de référence. Et là, tout ça, ça se fait en moins d'une seconde dans toutes les sphères. Donc, une image que vous avez, une vidéo sur Google que vous êtes en train d'écouter, n'importe quoi, et vous avez de l'information supplémentaire que vous pouvez trouver.
Fait
que
là, tantôt, tu disais sur Meta, c'est 185 000 compagnies qui te regardaient. Là, on va exponentialiser, là.
Ben, écoute, c'est pour ça, et c'est pour ça que Google a voulu mettre de l'emphase en disant deux à trois fois, en disant ça, ça s'en va pas dans notre catalogue de recherche de Google Chrome. Donc, tu sais, vous comprenez que quand vous acceptez des cookies, votre historique de navigation, tout ça, là, c'est vraiment l'information que Google réutilise pour vendre à des publicitaires, vendre la publicité, vous référer, intégrer tout ça à Meta. Mais là, pour la fonction Circle to Search, c'est en mode privé. Donc, ça veut dire que toutes les recherches que vous faites, ben nécessairement, vont rester privées jusqu'à temps que vous cliquez sur le lien pour aller sur Google Chrome. C'est pour ça, encore là, Google, qu'est-ce qu'ils disent et qu'est-ce qu'ils font en réalité? J'ai un peu de la difficulté à croire. Là, donc, en voulant dire, peut-être si tu utilises le navigateur par défaut de Samsung, parce qu'il y a un propre navigateur dans les téléphones Samsung, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Google Chrome. Et je vous incite de ne pas utiliser Google Chrome d'une certaine façon là, si vous avez un téléphone Galaxy. T'sais, si vous voulez vous assurer que vos recherches de Google en termes de publicité ciblée ne soient pas si ciblées que ça pour vous, pour ne pas vous inciter à acheter des trucs, ben allez-y avec un navigateur comme le Samsung Galaxy, le navigateur donc de Samsung,
puis qui est très efficace là d'ailleurs. Là, ça fait longtemps là, même tu sais, ça fait longtemps qu'ils en font un. Puis que moi, quand j'étais plutôt au niveau de Samsung, lorsque j'ai eu un Galaxy S6, 7 là, j'utilisais tout le temps celui-là par rapport à Chrome.
Donc, ben voilà, donc Circle to Search, donc et puis, ben on n'a pas annoncé que c'était si exclusif que ça, donc vous allez comprendre que, d'après moi, l'année prochaine ou même en fin d'année, ben une bonne gamme des téléphones Pixel devrait avoir aussi cette nouvelle fonctionnalité-là qui est propulsée par Google. Donc, le S24, c'est lui d'entrée de gamme. On peut pas vraiment dire que c'est un entrée de gamme parce que c'est un téléphone qui coûte quand même assez cher. J'ai pas les prix. On pourrait peut-être aller sur le site, mais je pense, à ma connaissance,
c'est 1100$ pour le modèle de base.
Voilà.
C'est flagship, là. C'est normal.
Donc, un écran légèrement plus grand que le S23. Donc, on parle d'un écran de 6,2 pouces, donc 15,7 cm. Même chose pour le téléphone milieu de gamme, donc le S24 Plus. Donc, on est à 6,7 pouces. Puis, on parle d'une résolution améliorée de 1440p.
Mais on arrive au moins avec la nouvelle version de Gorilla Glass, la quatrième, qui est très, très, très robuste. Là.
Oui, absolument. Donc, on a annoncé qu'il était 4 fois plus résistant au graphing que les modèles précédents. 4 fois.
Qui sont déjà très résistants maintenant. Là. T'sais, moi, j'ai scrappé mon iPhone 12, là, mais qui était sur la version 3e, mais c'est parce que j'ai vraiment pas fait attention. Mais mis à part ça, là, c'est vraiment, je dirais que c'est dans les vitres les plus résistantes qu'on a maintenant, de plus en plus, là, d'un modèle à l'autre.
Ben moi, je ne mettrais plus. Là, t'sais, la petite couche protectrice que le monde met souvent et qui casse, là, ça, moi, je ne mettrais plus ça là, sur le téléphone actuel. Surtout si vous avez un Pixel 8, un S23, un iPhone 15.
C'est parce que si vous le sacrez à terre, là, il va casser pareil l'écran.
Ouais, c'est ça.
Ça change rien. Là. Je veux dire, c'est...
Mais pas pour l'anti-graphing. Là.
C'est ça, exactement. C'est ça.
Donc, 4 fois plus résistant quand même. Donc, c'est le Gorilla Glass Armor qu'appelle. Très intéressant d'avoir ça sur un téléphone. On s'entend. Là, c'est, pour moi, c'est élément principal. On s'entend. Là. Donc, 1440p de résolution. Donc, le S24, S24 Plus aussi sont dotés de 3 caméras, dont une de 50 mégapixels, une ultra large de 12 mégapixels et un téléobjectif aussi de 10 mégapixels qui me semblait assez spectaculaire. Donc, de qu'est-ce qu'on voit? Et on démontre une vraie vidéo d'un band K-pop. Hein? Vous savez que Samsung, c'est une compagnie sud-coréenne. Donc, évidemment, là, on montrait beaucoup de trucs coréens, la culture coréenne qui est aux États-Unis. Ils sont, tu sais, tout le temps un peu par là. Bande d'une certaine façon. J'ai trouvé quand même assez comique de ce côté-là. Mais vraiment stabilisateur. Donc, vraiment, vous allez comprendre que l'objectif, il bouge dans l'appareil pour vraiment avoir une excellente stabilisation vidéo. Ça, c'est vraiment pertinent de ce côté-là. Qualité d'image, top notch, vraiment. Là, en tout cas, de qu'est-ce qu'on voyait, malgré qu'on est zoomé, malgré qu'on utilise le téléobjectif de 10 mégapixels pour faire les vidéos, j'ai trouvé que la qualité visuelle était vraiment exceptionnelle. Réellement, là. Watch out Apple, parce que là, ça, c'est quand même assez spectaculaire.
Les écrans AMOLED, là, souvent, ça donne des
très, très belle.
Mais c'est le rendu couleurs, sur là, grand écran, parce qu'eux, ils présentaient ça sur un écran gigantesque. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis la qualité d'image était quand même belle. C'est sûr, ça a été trafiqué là, par le projectionniste. Là. Mais on s'entend, la qualité était quand même au rendez-vous. Là. Vraiment spectaculaire.
Bien, c'est pas rien que ça. Puis aussi, là, dans le fond, ça fait un petit bout de temps aussi que les appareils de Samsung sont très, très bons dans des conditions où est-ce qu'on n'a pas beaucoup de lumière. Donc, les photos de party, là, bizarrement, là, ben, pas bizarrement, mais on s'aperçoit qu'il y a une différence qui s'est faite au niveau entre les appareils Apple et les appareils Samsung. Dès à partir du S21, S22, on commençait à avoir des très, très belles photos avec dans des contextes de pas beaucoup de lumière. Là, le capteur est capable tellement d'aller chercher beaucoup. Puis évidemment, l'intelligence artificielle va retravailler tout ça pour aller chercher le plus.
Ah, absolument. C'est ça qu'on présente aussi, tranquillement, pas vite. On continue à parler de photos parce que là, il était au musée Louvre en France et là, on voulait vraiment prendre des photos de portraits. Et là, on démontre à quel point qu'on peut être loin, zoomer sur la Mona Lisa puis s'assurer qu'elle est encore de top qualité. Mais pourquoi est encore de top qualité? Parce qu'on se trouve à remplir de pixels. Ben, parce que l'image est sur le web. L'image, on l'a sur le web. Donc, malgré que votre image que vous avez prise est de moyenne qualité, ben, l'intelligence artificielle, ça va remplir vraiment d'informations la photo. Et ça fait en sorte que votre photo, ben, vous êtes content au final parce que la photo que vous vouliez prendre, ben, une meilleure qualité que le rendu qu'on avait initialement avec la photo. Et vous allez le voir dans votre appareil photo que cette photo-là a utilisé l'intelligence ou pas. Donc, vous pouvez le désactiver si vous voulez. Puis, c'est un doublon. C'est pas un doublon, là. C'est vraiment une photo unique. Donc, on voit la photo avec intelligence, on voit la photo initiale. Puis, c'est vous qui choisissez si vous voulez garder l'initiale ou pas. Donc, là, vous avez des préférences à remplir dans le téléphone pour le fonctionnement, comme vous voulez. T'sais, c'est un peu ça.
C'est inclus dans les métadonnées aussi que c'est une photo qui a été générée par l'intelligence artificielle. Donc, ça va être aussi, ça va permettre en même temps de tracer ce qui est fait par l'intelligence artificielle versus ce qui est fait par l'appareil humain.
Exactement. On est rendu là. On est rendu là en 2024 avec les appareils photo. Et vous allez comprendre que si on décide d'investir beaucoup d'argent, ben là, on peut aller acheter le S24 Ultra, donc un cadre en titane. C'est une première pour Samsung d'arriver avec un cadre en titane, quand même.
Ouais, c'est pas pour copier sur l'iPhone 15 qui vient juste de bord.
Pas du tout, pas du tout. Et on compte un écran de 6,8 pouces et qualité de 1440p, mais on parle de 5 caméras. Donc, la seule principale qui possède des améliorations, donc avec un zoom de 5x et 50 mégapixels. Donc, c'est la seule différence, je vous dirais, qu'il y a avec la version Ultra du S23.
Le petit bémol que je mets à cause maintenant des focales qui commencent à être de plus en plus intéressantes sur les téléphones, c'est que ça fait une disproportion au niveau de la section caméra sur les appareils qui se met à faire une grosse protubérance. Donc, assurez-vous d'avoir un bon case qui couvre l'arrière. Comme on dit, les vitres sont de plus en plus résistantes.
Oui.
Assurez-vous que le derrière, là, que votre caméra, quand vous déposez, là, va pas te déposer sur la table, parce que c'est souvent ça, là, ce que j'ai vu, là, je vais souvent sur Marketplace pour voir, puis ce que je vois souvent des téléphones, c'est les caméras qui sont brisées, parce que les gens n'ont pas mis de case.
C'est ça.
Là, ils le déposent à quelque part.
Les caméras, ils sortent quasiment d'un quart de pouce à ce temps.
Ben, ils n'ont pas le choix. C'est parce que c'est ce que j'ai toujours mentionné, le problème des appareils photo sur les téléphones. C'est que la focale n'était pas assez longue. Fait qu'avec une focale trop courte, ben, il n'y a pas assez de lumière qui peut rentrer. Fait que c'est pour ça qu'on réussit maintenant à faire des mélanges de miroirs, ben, en fait, de lentilles qui sont tellement bien faites qu'on est capable de faire ça en très, très petit format pour permettre de mettre ça dans des téléphones et avoir des images vraiment intéressantes, comme tu le mentionnes.
Mais là, tu as un bon point, par exemple, parce que si vous achetez un téléphone sur le marketplace, puis il y a de l'air alléchant le prix, puis on parle d'un S23, un exemple, Ultra, puis il y a 5 caméras, là, essayez les 5 objectifs différents, là, parce que vous pouvez vraiment être assez surpris. Ah, l'objectif de base, il fonctionne bien. Le deuxième, ah, l'image est floue. Ah, elle reste floue. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça peut être ça, la défectuosité. Hein?
Oui, c'est comme d'acheter un véhicule puis de ne pas tout tester, justement, les items du véhicule, les miroirs et compagnie, voir si le coffre referme quand tu l'ouvres. Donc, c'est des trucs de base à faire, justement, pour être capable d'avoir un très bon achat.
Oui, exactement. On dirait qu'on a un ami commun qui s'est fait avoir avec un char.
On le salue.
Exactement, on le salue. Salut Mathieu. Et puis pour terminer, ben un des éléments que j'ai trouvé super intéressant, et on participe aussi avec Meta pour ça, mais pas juste Meta aussi, vous allez comprendre, c'est la fonction Quick Share que dans les téléphones Samsung depuis quand même un bon moment. Mais là, du côté de Samsung, on dirait qu'on s'est rendu compte que, ben, de téléverser des photos à quel point que Facebook compresse hein, vos photos. Là. Tu sais, quand vous envoyez des photos sur Messenger, là, vous prenez une photo avec votre S23 et la photo initiale, elle va peser à peu près 8 mégaoctets, à peu près. Vous l'envoyez sur Messenger, votre photo est rendue à 200 kilooctets. Donc, voyez ça là, comme une chanson que, en format CD qui était extrêmement compressée avec un format MP3 et qui sonne le cul. On va le dire comme ça. Ça sonne vraiment pas bien. Ça sonne merdique. On entend la compression numérique énormément. Mais là, du côté de Quick Share, on veut vraiment standardiser ça et ça va être standardisé. Donc, la fonction Quick Share va se retrouver dans tous les téléphones Android, même compatible Windows. Donc, si j'utilise ma fonction Quick Share, ça veut dire que je envoie en format qualité originale mes photos d'une plateforme à une autre. Et on va être 100% compatible avec Windows, compatible pour tous les téléphones Android. Donc, ça veut dire que si je veux vraiment permettre à quelqu'un de voir une belle photo en format original, ben j'utilise Quick Share dans mon téléphone, dans la galerie de Samsung, et puis je suis capable de l'envoyer en format initial, non compressé, mes photos. Si la photo que je l'avais prise en format RAW, qui pesait peut-être 14 mégaoctets, ben la personne va recevoir la qualité originale de la photo. Et là, je trouve que pour 2024, enfin, une compagnie qui décide de mettre un peu de côté la compression numérique au détriment d'utiliser beaucoup plus de bandes passantes et enfin qu'on peut maximiser le potentiel de nos appareils parce que là, tout est compressé tout le temps partout. Donc, je trouve ça intéressant.
C'est la nouvelle mode des dernières années, la compression. Tu sais, sur YouTube, souvent, on le voit.
Ben, ça,
ils downgrade ta qualité souvent, tout dépendant du nombre d'utilisateurs sur les serveurs, tu sais, justement pour sauver du bandwidth. Là.
C'est ça. Il n'y a pas d'autre raison.
C'est agressant, moi, je trouve.
Exactement. Ben oui, c'est pour ça que, tu sais, au moins, quand on l'envoie, mettons comme quand j'envoie maintenant des images par courriel, ben là, on a le choix de garder l'original ou sinon de le mettre en compressé. Fait que, tu sais, au moins ça, je trouve ça intéressant d'avoir le choix parce que tu le fais compresser automatique. Tu sais, je veux dire, ça sert à quoi après ça d'aller mettre des belles images sur des Instagram de ce monde pour l'avoir super compressé puis que
absolument rien. C'est comme acheter une table tournante d'une excellente qualité avec des albums vinyles de top notch puis de faire rouler ça sur une barre de son qui coûtait 50$ que j'ai acheté au Walmart. Je comprends pas le but de faire ça là. Puis ça serait un peu la même chose. Et d'ailleurs, ben, ils ont annoncé aussi qu'avec Instagram et Snapchat, ben, que les photos vont pouvoir être vraiment téléversées, oui, en compression numérique, mais on va pouvoir supporter le format Super HDR. Donc, pour aller chercher la profondeur dans l'image, ben là, maintenant, ça va être compatible pour Instagram et Snapchat à partir de vos appareils Samsung de pouvoir téléverser. C'est la première fois qu'on l'offre en plus. Hein. C'est la première fois que c'est ces compagnies-là. Mais tu fais comme... Mais coudonc, pour qu'ils filtrent autant en bande passante, là, Snapchat puis Instagram, là, c'est qu'ils s'en téléversent à la seconde en maudit des photos puis des vidéos.
Ben photos oui. De sushi puis de dessert, il y en a en masque, ouais, téléchargent.
C'est débile.
Et des fesses, on
ouais,
va dire.
Ouais, des
fesses puis des seins.
Ah oui, c'est ça, exactement.
Mais là, on l'a à voir en hein, meilleure qualité.
Ben oui.
En format HDR.
Ils vont être plus gros.
Ça, c'est à voir.
C'est une option d'intelligence artificielle si tu veux grossir.
Ah, comme dans le vieux film de John Hughes, là, Weird Science, là, quand ils grossissent les seins de.
Tu t'as marqué ça, Guillaume.
Ouais, hein? Créature de rêve.
Ouais, ça, créature de rêve, ouais. Exactement. Ben c'est
oui,
ça.
C'est un classique.
Voilà. Donc, ben voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de Samsung. Donc, super intéressant. Et toi, JS, tu voulais, avant de terminer le show, tu voulais revenir sur un produit qu'on a jasé la semaine dernière.
Oui, exact. Le R1 de Rabbit, l'espèce de petit outil d'intelligence artificielle qui était sold out, là, justement, là, qui a été présenté au CES.
Ouais.
Il a fait une pré-vente une fois, deux fois, trois fois.
Ouais.
Là, ils ont arrêté. Ils ont fait une quatrième, une cinquième, puis ils l'ont complété. Mais là, on peut encore les télécharger. Donc, il y a à peu près plus de 50 000 appareils qui ont été réservés d'avance au coût de 200$ US. Donc, ça revient à peu près à 272$ pas incluant les frais de transport. Donc, si vous voulez aller vous procurer la dernière machine d'intelligence artificielle qui ne coûte pas 1400$ ou c'est quand même abordable.
Oui, mais c'est. Là, je vais faire avec toi, c'est très nébuleux qu'est-ce que la machine est capable de faire.
C'est niche.
C'est nébuleux, là. Moi,
toi, tu trouves que c'est si nébuleux que ça?
Oui. Puis je crois pratiquement rien de ce qui va arriver.
Ah, ouais.
De ce produit-là.
Écoute,
j'ai vraiment de la difficulté à voir le modèle d'affaires parce que c'est pas un service que tu vends. Donc, si tu veux vraiment vendre une petite bébelle comme ça qui coûte pas trop cher, puis que ça va te coûter une fortune en serveur pour propulser tout ça, je sais pas aussi où vont faire leur argent. Donc, le modèle d'affaires pour les actionnaires est pas super intéressant, malgré que je pense qu'on voulait aller chercher l'intérêt des consommateurs. Ceux, ils l'ont fait. Ça, je pense qu'ils l'ont.
C'est sûr que tu as des options payantes. C'est définitif que tu vas avoir l'outil de base. Mettons, pour mesurer une tablette, comme on disait,
oui.
La tablette, elle a, la console ici à la station, c'est combien de large par combien de profondeur. Tu sors le petit outil, tu le mesures, ça te sort les specs en temps réel. Mais exemple, si tu veux être capable de le partager à tout le monde, à ton fournisseur rapidement, là, tu vas peut-être te pogner un abonnement annuel. Pour l'instant, ils disent qu'il n'y a pas d'abonnement annuel.
C'est ça, c'est comme ça qu'ils vendent leurs produits.
Mais il y a bien des compagnies aussi que les premiers modèles, ils font pas ça pour faire de l'argent, ils font ça pour se faire connaître puis mettre un pied justement dans l'univers numérique. Puis après ça, là, ils explosent puis là, ils forgent leur compagnie avec tout ça. Donc, c'est à voir.
Ben, c'est à voir, mais allez voir la conférence, par exemple, parce que c'est une petite conférence.
Écoutez le keynote, là. Ouais, c'est super intéressant.
Vingtaine de minutes à peu près, ouais. Donc, on présente le produit. Donc, c'est Rabbit. R1.
Exactement. Compagnie Rabbit, le produit, c'est R1, petit produit orange. Allez voir ça. Donc, moi, ça m'intéresse. Je suis pas un fan de IA, mais je trouve que ça, c'est quoi d'abordable. Là,
surtout pour monsieur, madame, tout le monde.
Ouais, à 300$, c'est un petit peu de sous. Tu peux te faire un petit cadeau. Là,
c'est ça. C'est un beau petit gadget. Donc, allez voir ça. Là. C'est sûr, si vraiment on arrive à la hauteur des promesses qu'ils font, ça va être très spectaculaire. Là.
Exact. C'est ça. Je comprends que tu as une crainte derrière ça, puis c'est normal parce qu'il ne faut pas être dupe non plus. Là. On s'est fait beaucoup de faire de promesses dans la vie.
Oui.
Surtout en technologie, puis des fois, ben, on s'est fait décevoir.
Oui, parce qu'en 2015, on était supposé être dans des voitures volantes.
Ouais, c'est ça. Ouais.
On ne l'est même pas. Puis Jazz, t'es supposé être rendu au quoi?
Au 13e, 14e, ouais, c'est ça. Si on se fait à Back to the Future.
Ouais.
Hey, merci, chers auditeurs, d'être là. Rendez-vous fidèle au poste. Vous allez comprendre, le bingo commence dans 12 minutes. Donc, commencez à vous préparer. Si vous voulez nous texter une photo de vous qui est en train de jouer au bingo, allez-y, 418-903-5969. Restez sous nos ondes. Vous allez comprendre que c'est JMD le dimanche. C'est du talk, c'est du bingo, c'est du gros fun. Et puis, pour tous les détails de la programmation, 969fm.ca. Merci beaucoup, Guillaume.
Ciao.
Merci beaucoup, JS.
Un plaisir.
Et là-dessus, ben, je vous souhaite une belle journée sur les ondes du 96.9. Ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.